Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Jérémy et Aurélien de la galerie Pradier Jauneau. Salut!
Bonjour Adrien, merci de nous recevoir.
Ça, ça commence comme ça.
Bonjour, ouais, Adrien. Le gros blanc, le gros malaise direct, quoi. Putain, vous savez mettre les gens à l'aise, moi. Ma première question, c'est qui êtes-vous, galeriste déjà, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, l'un après l'autre ou ensemble d'ailleurs?
Ouais. Tu veux commencer?
Bonjour. Comme ça, je ne fais pas de blanc. Tu pourras même peut-être raccourcir un peu le blanc.
Non, moi, j'adore ces moments de malaise comme ça. C'est
ok. Ça commence fort. Je m'appelle Aurélien Jauneau. J'ai 37 ans. On travaille avec Jérémy depuis maintenant 2014. On s'est rencontrés, en master, d'histoire de l'art, à l'INHA. Okay. Dans le deuxième. Et en fait, on s'est pas quitté à partir de ce moment-là. Voilà.
Très bien.
Hyper synthétique. J'avais oublié qu'on avait 3 heures.
Non, mais c'est exactement ça que je voulais, que j'attendais. Okay. Donc ça, là, c'est Aurélien qui vient de parler et Jérémy. Donc il a une casquette, mais il a une voix différente.
Et le micro est bien posé sur le menton. Voilà. Donc moi, je suis Jérémy Pradier. Ouais. Je suis galeriste et marchand à Paulbert Serpette depuis bientôt 10 ans. Ouais. On défend avec Aurélien, on défend la création française et on a la particularité de la défendre du 20e siècle jusqu'au 21e siècle, c'est-à-dire qu'à la fois on a une spécialité sur le design français avec ses grands noms, ses grands artistes de Perriand à Garriche ou Gascoigne, et en même temps depuis 5 ans on a aussi accueilli la création contemporaine, c'est-à-dire des artistes ou des designers, et ça monte en puissance depuis maintenant 2 ans, et les clients nous suivent à la fois pour cette curation sur les choses anciennes et sur la création contemporaine.
Qu'est-ce qui monte en puissance? C'est vraiment la création contemporaine.
Ouais. Oui, on sent que depuis le... En fait, avec Aurélien, notre particularité, c'est que la seule chose qu'on s'est imposée quand on a commencé l'aventure, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait le mettre chez nous? On est collectionneur pour nous. On a toujours acheté. Notre premier achat en commun, c'était le tabouret de Gascoigne, tabouret trèfle, qui était vraiment le début d'une passion commune. Et d'avoir cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on pourrait l'avoir à la maison, fait qu'on a commencé à développer une identité qui nous est propre. Et l'après Covid, à la fois pour nous et pour les clients, il y a une appétence sur la création. On a envie de questionner les formes et on a envie de se réinventer. Enfin, c'est assez intéressant ce qui se passe, je trouve. Et ça ne dévalorise en rien, ça ne dessert jamais, ça n'enlève rien à disons, des signatures plus historiques. Au contraire, ça les valorise parce que les créateurs s'inscrivent dans ce
travail. Continuité, ouais.
Donc il y a une appétence, pour répondre à ta question, sur la création contemporaine.
Génial. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez reprendre votre parcours depuis votre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui? Alors on est deux, c'est toujours difficile quand on est deux parce que bon, à un moment donné les parcours se recroisent, etc. Parce que vous vivez ensemble, vous êtes mariés et vous êtes cofondateur de la galerie. Mais ce qui m'intéresse, c'est comprendre un petit peu l'enfance de mes invités, c'est comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur enfance pour qu'ils fassent ce qu'ils font aujourd'hui, quels sont les incidents, les accidents, ou en tout cas les rencontres, qu'est-ce qui les a forgés, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup.
Mon père était marchand.
Ouais.
Donc en fait, c'est des choses qui quand même se transmettent. Quelques fois, mais souvent. Mmh. Et en fait, j'ai compris très tôt que si j'avais envie de passer du temps avec mon père, fallait impérativement que je passe du temps avec sa brocante.
Ouais.
Et j'avais tout intérêt quand même à me trouver rapidos une collection, ou en tout cas quelque chose un peu à accumuler,
ouais.
Pour y trouver aussi mon compte, mmh. en fait. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, une famille de 3 enfants, mmh. Des parents vraiment, enfin des 2 parents fonctionnaires, un père qui a lâché ça pour devenir ensuite antiquaire. Mais voilà, en fait, la passion du meuble, moi, elle m'est apparue très tôt, très tôt. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Jérémy, le studio dans le cinquième, il faisait 16 mètres carrés, mais il y avait combien? Il y avait 7 chaises.
18 assises.
18 assises à un moment. Ouais, ça a culminé à 18. Ça a ouais. culminé à 18. Avec 2 tabourets. 2 tabourets qui se mettaient quand même l'un sur l'autre. Donc ça comptait pas vraiment.
Ça va. Et c'était quoi son créneau, le créneau de ton père?
Début de siècle. Belle époque.
D'accord.
Vraiment fin 19e et vraiment belle époque. Et lui, en fait, si tu veux, il avait pas du tout de rapport direct avec la clientèle. C'est pour ça que c'est assez marrant quand on peut en parler avec lui. Aujourd'hui, parce qu'il, alors maintenant, il comprend, hein, notre travail, mais au début, c'était pas hyper évident parce que lui, en fait, il faisait soit des débarras, soit des déballages marchands. Il achetait les pièces, mais en fait, il les restaurait pas ou très peu parce qu'en fait, il les vendait aux professionnels.
D'accord.
Alors que nous, au contraire, on a principalement, dans nos clients, aujourd'hui avec Jérémy, des particuliers et des professionnels, mais des professionnels de la décoration, donc des architectes, des décorateurs, où en fait, en gros, nous, quand tu viens acheter une paire de fauteuils chez nous, par exemple, elle est intégralement refaite. Si tu veux, il n'y a pas de travail dessus. D'accord. Elle est prête à poser, prête à profiter. Et elle a 10 ans minimum devant elle, tu vois, pour passer du temps. Mon père, au contraire, était plus sûr, genre, je prends un truc, je sais que c'est bien, hop, et je le propose à un marchand parce qu'il va en faire quelque chose.
D'accord.
Mais lui, si tu veux, t'es vraiment passeur. Il était chineur et passeur.
D'accord. Juste, en aparté, expliquez bien tous les termes, parce que t'as parlé de déballage, t'as parlé de belle époque, tu vois.
Oui, alors,
par du principe qu'on est des teubés, des auditeurs, et moi aussi. Je m'inclus dedans.
En fait, en gros, si tu veux, il était lui très spécialiste de la fin du 19e et du tout début 20e.
Ouais.
Donc jusqu'à 1910, en fait, en gros.
C'est-à-dire avant les... ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment avant les fonctionnalistes. C'est si on résume, c'est avant Le Corbusier et avant Perrien.
D'accord.
Il y a encore un travail ornemental qui est très présent, que ce soit dans les bois, dans les matières qui sont choisies. Ça veut pas dire que c'est pas parfois minimal, mais néanmoins on est avant les fonctionnalistes.
Ouais, donc on est dans l'ornementation, il y a beaucoup de décoration, etc.
Dans toute sa diversité, mais
un peu bon marché, quoi.
Ouais.
Tu vois, dans l'architecture, c'est parfaitement ça.
D'accord, très bien. Parfait. T'as pas fini ton histoire?
J'ai pas fini mon histoire.
Non, parce qu'en fait, tu grandis avec un père antiquaire et ensuite, donc, t'as cette maison en Picardie dont tu peux parler.
Exactement.
Un lieu d'expérimentation.
Voilà. Et donc, en fait, en gros, si tu veux, donc, mon père est marchand. Mes parents décident d'acheter une maison à la campagne en Picardie, dans l'Aisne, qui est un espèce de grand corps de ferme où, en fait, mon père peut y entasser parfaitement toutes ses collections et ses meubles.
Okay.
Ce qui a été un moment assez pénible au moment où on a dû la vendre, cette maison, et donc la vider. C'était que mon père était un peu comme un gamin à Noël, en regardant toutes ses caisses. Oui, c'était un peu, et ça en était presque terrifiant, quoi. À un moment donné, le temps allait, enfin, vraiment nous manquait. Mais en fait, voilà, moi, si tu veux, j'ai grandi, petit dans une famille où à la fois ma mère était hyper high-tech, hyper moderne. Elle avait une vue très contemporaine de tout. Et mon père, au contraire, était, en tant que broc, tu vois, en tant que brocanteur, il avait une vraie appétence pour le meuble ancien. Donc, c'était assez drôle chez nous quand on était petit parce que tu pouvais par exemple avoir un très grand trumeau, un grand miroir début de siècle, vraiment avec des volutes dans tous les sens, et à côté des chaises de Stark, tu vois. Il y avait un truc un peu marrant, le entre justement une espèce de d'apport très brocante. Alors après, c'était la chouette brocante, mais c'était quand même vraiment. Et à côté de ça, une mère qui ne voyait la vie que par du verre et du métal laqué, tu vois. C'était assez, et puis du pêche évidemment sur les murs, sinon c'est pas drôle.
Ils s'étaient bien trouvés, quoi.
Exactement. Ouais. Ils étaient assez bien trouvés. Exactement.
Très bien.
Et donc, en fait, en gros, si tu veux, donc je reprends le fil. Avec mon père antiquaire, il a fallu que je me trouve des collections. Donc j'ai ouvert d'abord sur les Salut les copains, les 45 tours. Donc Salut les copains, qui était un magazine pour jeunes dans les années 60.
Ouais.
Les chanteurs Yéyé, Claude François, Johnny Hallyday,
Obsession,
Chéla, etc.
Première obsession.
Exactement. Et en fait, et le 45 tours. Le 45 tours, si tu veux, c'est le petit disque, le petit vinyle à 4 titres ou 2 titres ensuite. Mais ça avait l'avantage pour moi, gamin, un, de pas être très cher sur les brocantes, et surtout, en fait, quand mon père faisait des débarras, d'avoir des choses à récupérer dans ces débarras. Mmh. Donc, en fait, moi, typiquement, genre, les chansons de la Motown, je les ai toutes connues avant chanter en français. C'est-à-dire que j'ai découvert les chansons de la Motown vers 15, 16 ans, je pense. Mmh. Mmh. Mais en fait, avant, je les connaissais chantées par Claude François, par France Gall, etc., ce qui était assez marrant. Et en fait, très très rapidement, donc sur les années 60, sur toute cette culture un peu pop, mmh. Je suis arrivé au meuble. Et en fait, je suis arrivé au meuble par le travail de Pierre Paulin, mmh. Avec le mushroom que j'ai trouvé un jour par hasard aux encombrants. Mmh. Et là, j'ai eu une forme de déclic. Je savais qu'en fait, c'était les meubles qu'il fallait collectionner, que c'était pas du tout les 45 tours. Ouais. Donc voilà, ça a pris un petit virage.
D'accord. T'avais quel âge à l'époque là?
Quand je séchais le sport, tu veux dire?
Ouais.
Et que j'ai trouvé le mushroom à la poubelle, je devais avoir 15 ans, un truc du genre.
D'accord, ok. Et donc là, tu décides d'en faire ta vie. Tu sais à ce moment-là que ce sera ta vie.
Je sais pas si c'est ma vie. Je sais en tout cas que ça va être une grande part de mon intérêt,
ouais.
Mais une très très grande part. C'est-à-dire que j'ai été chercher toutes les informations de la Terre. Il faut projeter. Hein, j'ai 37 ans. À 15 ans, il n'y a pas Internet. Ou si Internet, c'est avec le modem. On a une heure par personne par mois.
Bien sûr.
Voilà. Pour le reste, je courais les bibliothèques pour savoir ce que c'était, dans quel courant ça s'intégrait, et en fait quelle histoire ça racontait. On peut dire que je suis venu au design par le biais de mon père, évidemment, pour passer du temps avec lui, mais par appétence aussi personnelle. Mmh. Mon père était très féru d'histoire et il m'a transmis ça. Et donc, en fait, moi, le meuble, au départ, j'ai considéré ça très tôt comme un pan d'histoire, en fait, qu'il fallait défricher, enfin, tu vois, vraiment, en tout cas, d'aller chercher un peu avec les dents.
D'accord.
C'est vraiment ça.
Donc, tu fais ton lycée ensuite?
Je fais mon lycée dans le 91, dans un lycée super. Où je pars en art plastique, mais ma mère considérait que c'était pas vraiment une formation pour trouver un métier ensuite.
Bien sûr.
Et donc ensuite je rentre à la fac en histoire de l'art.
Ok.
Voilà, et puis on finit par se rencontrer 4 ans plus tard avec Jérémy.
Sur l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, c'est ça se forme à plein de métiers, professeur d'histoire d'art, de l'art.
Je sais pas si vraiment ça forme un métier, honnêtement.
Ça donne une culture.
En tout cas, ça t'ouvre des horizons et ça te permet de te nourrir intellectuellement. Enfin, je pense que c'est un cursus qui est génial, qui est vraiment hyper nourrissant, hyper plein, en fait. Après,
je me permettrai de faire quand même une... Parce que j'ai quand même ma grande sœur qui est docteur en histoire de l'art, donc je pense que si elle entend ça, elle va dire, oui, bon, on va aller un peu plus loin. La formation d'histoire de l'art, c'est d'abord une formation d'historien. Donc, en gros, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand tu sors, t'as une formation d'historien, sauf que tes outils... Ton outil, ça va être l'art, ou plutôt les arts. C'est-à-dire que tu vas aussi bien travailler sur l'architecture que la sculpture. Par exemple, ma sœur est spécialisée sur la tapisserie française, notamment quelqu'un comme Oudry. Et en vrai, son travail d'historienne permet de décrypter une société, permet de décrypter une époque et de montrer cette histoire, cette évolution de l'histoire de France. Les enjeux, par exemple, autour d'Oudry et la tapisserie en France racontent un pouvoir politique, racontent des investissements. Et c'est en ça où c'est passionnant. Donc, quand tu sors d'une formation en histoire de l'art, tu as une culture générale extrêmement solide, très large, très nourrissante, mais tu as aussi des outils de travail assez rigoureux. Mmh. Tu sors une formation d'historien. Donc, ensuite, elle peut t'apporter, ou soit tu deviens historien toi-même ou chercheur, mais elle nous a apporté une vraie rigueur. Après, avec l'histoire de l'art, tu peux devenir aussi égyptologue ou archéologue. Enfin, c'est quand même une formation scientifique.
Ok.
Oui, c'est pas soit l'histoire de l'art,
c'est
soit
pas l'artwork.
C'est pas un truc pour t'occuper le mercredi après-midi. Ça reste quand même un vrai cursus.
Ok. Et vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école d'histoire de l'art? Non, ouais, c'est ça. Hein. Ok.
Un institut national d'histoire de l'art où quand tu passes à Paris, t'as la chance d'avoir des cours un peu plus à la carte, peu importe tes universités. Moi, j'étais sur Nanterre.
Okay.
Parce que j'étais suivi par Thierry Dufresne, qui est un grand spécialiste notamment de Giacometti, et Aurélien était suivi par Michel Poivert, qui est un spécialiste de la photographie, et on a eu la chance d'avoir des cours en commun tout en étant à la Sorbonne, tout en étant dans des universités différentes, et on s'est rencontrés là. Et on n'était pas le même type d'élève.
D'accord. Toi, t'étais plutôt très sérieux et lui, il branlait rien, quoi. J'ai l'impression. Voilà.
c'est un vieux raccourci.
J'étais au premier rang.
C'est un vieux raccourci. Je vais me barrer d'ici. C'était assez juste.
Ouais. Ouais, on s'est rencontrés parce que il n'avait pas de feuille le jour du partiel. Et moi, j'avais tout ce qu'il faut.
Il y a un petit côté saltimbanque. Ouais,
non,
mais...
Non.
Non, mais vous êtes assez complémentaires, alors. C'est génial.
Oui, encore maintenant.
Il y en a un qui a les feuilles et l'autre qui...
Exactement. Donc, lui en prendra une, tout simplement.
Très bien. Et donc, on va peut-être parler de ton enfance, Jérémy. Raconte-nous, toi, tu t'es né où, t'as grandi où et qu'est-ce qui t'a amené à l'histoire de l'art, d'ailleurs?
C'est assez drôle parce que quand j'écoutais Aurélien raconter son parcours, c'est un peu c'est l'inverse, même au moment de la révélation et de sa vocation, tu poses la question de savoir si c'était une évidence pour lui que ça allait faire partie de son métier. Pour avoir été un témoin privilégié de son parcours, la réponse est non. Aurélien se destinait plutôt à l'enseignement, et c'est moi qui arrêtais pas de le dire, mais c'est une évidence. Enfin, quand on était à côté, j'ai vu des photos de lui à 14 ans où il reproduisait déjà des périodes room, il faisait des rooms de sa chambre, il transformait ça en 70, mais d'une obsession du sol au plafond. Ouais. Et en fait, ça a été d'être témoin à côté, de le voir parfois se chercher comme tout jeune, de lui dire mais c'est ta vocation est évidente. Alors que la mienne, je la croyais évidente, et on en reparlera ensuite. Et finalement, le père d'Aurélien et Aurélien, de fait, ont complètement changé la vie. J'ai pris une trajectoire que j'avais jamais envisagée. Donc pour revenir sur mon enfance, l'inverse d'Aurélien, c'est-à-dire que moi j'étais toujours dans le mouvement, c'est-à-dire que j'ai un beau-père militaire, je suis vraiment un enfant de la France moyenne, ouais. Et une mère qui fonctionnaire, donc a pu suivre mon beau-père, on a beaucoup déménagé, et ma mère avait de toute façon, elle aimait beaucoup le voyage, elle avait un peu ce mantra qui était, en gros, c'est l'art de s'installer pour mieux partir, en fait, on était toujours, il y avait... une économie d'affaires, et puis on allait déménager. De toute façon, ce qui comptait, c'était le voyage. Donc, mes centres d'intérêt sont très vite portés sur les arts du mouvement. Mais on en reparlera. Mais ma première vocation, c'était le cinéma, et je détestais accumuler. Je n'aimais pas faire de brocante. Je n'aimais pas l'objet. C'était pas du tout, ma passion. Je préférais le théâtre, la danse, le cinéma, la musique. J'aimais les choses. Voilà. Et je me destinais au cinéma. Donc moi j'ai grandi un peu, j'ai grandi à Versailles, ensuite on est parti à Bordeaux, en vrai après il y a des petites étapes de parcours, bien sûr, tour. Et ensuite à Bordeaux, j'y suis resté jusqu'à mon lycée, et dès que j'ai pu je suis parti. Il fallait que je sois dans le mouvement, et puis je m'ennuyais un peu chez moi. Donc je suis parti à Lyon, et ensuite je suis arrivé à Paris, et voilà, ma première vocation c'était le cinéma, qui était assez évidente. Ouais. Et j'ai eu la chance, on s'est rencontrés, et très rapidement après, je crois un ou deux mois, j'ai eu la chance de décrocher mon premier stage, d'être embauché et d'en faire ma carrière, une bonne partie de ma carrière.
D'accord. Ok. Et donc, t'as fait quoi exactement?
Dans le cinéma.
Ouais.
Je suis rentré dans une boîte de prod, et au début, j'étais stagiaire, ensuite assistant de production et chargé de production et de développement. Ce qui était intéressant sur la fin, ce qui aujourd'hui nourrit beaucoup ma pratique et mon métier, c'est que mon boulot, c'était par exemple d'aller à Clermont-Ferrand, de voir des courts-métrages, de repérer de jeunes auteurs.
D'accord.
Donc, après, j'ai eu la chance d'avoir des missions pour le CNC, en dehors de la boîte où j'étais, ou pour Strasbourg, où je lisais des scénarios, et en gros, on faisait des fiches de lecture, on donnait des subventions. Donc en fait, je travaillais vraiment sur le développement d'un projet, c'est-à-dire comment l'idée du synopsis, ensuite ça va devenir un film à un moment donné. Moi, j'ai adoré cette phase d'accompagnement des réalisateurs, des scénaristes. Cette éclosion-là m'a toujours passionné.
Trop bien.
Je la retrouve aujourd'hui, mais...
Différemment.
En suivant les créateurs vivants, créateurs contemporains, je retrouve ce plaisir-là et les méthodes de travail que j'ai mis en place dans ma première carrière.
Très bien. Et ça a duré combien de temps, ta première carrière ?
Assez longtemps, en production 5 ans, et ensuite elle s'est poursuivie plusieurs années sur différentes missions. J'étais en free. J'ai aussi été scénariste à un moment.
Okay.
Donc ce qui est bien, c'est que le cinéma permet beaucoup de passerelles entre les différentes disciplines. Et ensuite, il y a eu l'activité qu'on avait lancée avec Aurélien, qui commençait à prendre de plus en plus de place, et il y avait un appel que j'ai pris du temps à...
Accepter,
à écouter. Parce qu'en fait, autant lui révéler, lui dire c'est ta vocation, prends un stand opus, ça a été assez simple. Il l'a ouvert avec l'argent que j'avais eu, une prime de tournage. Ça s'est passé un peu comme ça. Et en fait, on a eu la chance que ça marche très vite. Et très, très vite, mon rythme, j'avais deux vies. J'avais mon activité dans le cinéma, et puis il y avait les puces, la compta, la recherche. Et Aurélien m'a amené sur les brocantes, m'a fait découvrir tout ça, voir le design différemment. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est la connexion que tu as juste justement avec ma grande sœur qui est docteur en histoire de l'art, qui elle a une passion, alors qu'on a eu la même enfance en mouvement, qui elle a une passion pour les arts décoratifs qui est passionnante, qui aime vraiment ça. Et ils ont des échanges assez nourris justement sur la tapisserie, sur le mobilier, sur les arts décoratifs.
Mais elle n'est pas collectionneuse.
Mais parce que ça, on l'a pas eu, nous, dans notre éducation, si tu veux. Il y a quand même ce truc-là où il fallait pouvoir...
bouger vite.
Il fallait pouvoir bouger vite. Donc, on n'accumulait pas, il fallait être très léger. Donc, on n'a pas tellement eu ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mmh. On a eu la chance d'avoir été dans des musées très tôt avec mes grands-parents, d'avoir été ouvert à la culture.
Ouais. Toi, après Histoire de l'art, tu fais quoi? C'est quoi ton début de carrière?
Alors, après l'histoire de l'art, moi, je me prédestinais, donc, comme disait Jérémy, en fait, à l'enseignement. Je me voyais très bien être prof d'art plat. Mais j'aurais eu des feuilles cette fois-ci à donner aux gamins, aux élèves. Je me cherche un peu, et puis finalement, en fait, je rentre en galerie. Pareil, en fait, pour être stagiaire.
Ok.
Pour être stagiaire, et j'y reste 2 ans.
Mmh. Quel type de galerie?
Une galerie des arts décoratifs.
Ok.
Tu vois, à Paris.
En fait, dans quel quartier? Parce que c'est quoi le quartier des galeries?
Dans le 6e. C'est d'accord. Vraiment, en fait, le carré. Tu vas avoir la rue Mazarine. Enfin, vraiment, en gros, d'Odéon jusqu'au Pont des Arts. Tu vois, c'est l'espace de vraiment.
Ce carré. Carré des antiquaires.
Exactement.
C'est le fameux, c'est ça, hein, qu'on l'appelle
ça. Exactement.
Hein.
C'est ça. Et en fait, donc, j'y reste 2 ans. J'y reste stagiaire. Je reste stagiaire 1 an. Mmh. Après, je suis salarié. Et à un moment donné, en fait, je me dis qu'il est de bon ton, en fait, je suis prêt. Et en fait, quand je dis je suis prêt, c'est qu'en fait, on est prêt. C'est-à-dire que j'ai l'aval de Jérémy,
j'ai dans
la
Jérémy.
Poche. Ah ben, c'est un. Enfin, tu parlais là avant qu'on commence, mais sur l'entrepreneuriat, c'est pas un saut anodin en fait. C'est pas un saut anodin. Tu te dis pas demain, tu te réveilles pas un matin en te disant, oui, écoute, je vais me réveiller. Enfin, je vais me lever le matin pour faire en fait ce que j'aime. Ça, c'est très cool. Mais après, en fait, t'as la non-sécurité où en fait tu dois créer ta chance, c'est vraiment ça, tu dois créer ta chance. Et en fait, créer sa chance, c'est pas seulement en fait se dire allez hop c'est bon je suis prêt. Non, en fait, il faut que t'aies les gens derrière toi, il faut que t'aies un peu de sous, notamment en fait sur la question du tournage. Mon père m'avait filé aussi un peu de sous pour débuter, mais il faut avoir des soutiens, il faut avoir de l'appui. Mais en fait, si Jérémy avait pas été là, ou si Jérémy avait pas dit c'est
je
le suivant, je suis pas certain.
Ouais, t'aurais été prof. Non, ou antiquaire, salarié.
Oui, ou en tout cas, peut-être. Sans Jérémy, ma carrière aurait été très différente.
Bien sûr.
J'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce qu'en fait, à deux, t'es plus fort. À deux, t'es plus fort, tu te soutiens. Quand t'as des succès, en fait, ils sont décuplés. Quand t'as des emmerdes, en fait, t'as toujours quelqu'un qui trouve une solution. Dans le binôme. Enfin, c'est quand même plus chouette de travailler à deux.
Et alors, c'était quoi le projet de l'embryon? Enfin, en tout cas, la genèse du truc, c'est que, à un moment donné, tu dis, OK, j'ai envie de me lancer, je suis prêt, etc. Alors que ça faisait que 2 ans que tu travaillais, en fait, t'as fait un an de stage et un an de...
Ouais,
t'étais très
fait,
jeune, en fait, à l'époque, t'avais quel âge?
J'avais 26 ans.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Alors, l'embryon, c'est très simple, c'était les choses qu'on avait à la maison. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il est parti d'abord avec nos fauteuils.
Ah.
Et notre canapé.
Il a vendu la baraque.
C'est vraiment, en fait, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment partie de là. C'est-à-dire que les premiers fauteuils et le premier stand, c'était ce qu'on avait à la maison.
Ouais.
Ce qu'on achetait déjà pour nous.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire la reconstruction française et le début des Trente Glorieuses de Gascon à Garriche.
Ouais.
Des Gascon à Garriche. Donc là, vous prenez un box au.
Exactement.
Au
on appelle ça un stand.
Un stand.
Un box, c'est pour garer les voitures, mais tu as raison. C'est le même principe de fermé et d'ouvert. C'est ce rideau métallique à clé.
Est-ce que tu veux qu'on fasse juste, peut-être, je sais pas si t'es bien familier avec Paul Bert-Serpette, mais peut-être refaire un
historique, ouais.
Juste resituer ce qu'est Paul Bert-Serpette, au sein des Puces de Saint-Ouen. Parce que...
Moi, je pense qu'il faut tout expliquer, hein, clairement, hein, parce que c'est la première fois que j'ai des antiquaires galeristes. Non, on dit quoi? Antiquaires, galeristes?
Galeristes, parce qu'en fait, on est le métier d'antiquaire ou marchand. En fait,
marchand.
Notre métier d'antiquaire, c'est 50% de notre travail. Il est équilibré parce que le travail avec la création contemporaine, si tu dis ça à un peintre qui crée en 2023 que je reste antiquaire, c'est pas l'antiquité.
Ça marche.
Non, ce qui est intéressant, c'est en gros, en France, on a la chance d'avoir au nord de Paris, à Saint-Ouen, l'un des plus grands marchés aux puces du monde. C'est classé patrimoine immatériel et il y a, si je dis pas de bêtises, il y a une dizaine de marchés différents. À Saint-Ouen, on va trouver la rue des Rosiers. C'est celle, quand on connaît pas, que je suggère d'emprunter parce qu'elle va desservir la plupart des marchés. Aurélien m'écrit qu'il y en a 14.
Il faut être précis.
Il faut être précis. En fait, la rue des Rosiers va desservir ces 14 marchés qui ont chacun une identité assez différente. On va trouver des... un marché plutôt sur les fringues vintage, vous allez par exemple à Dauphine, mais il va y avoir beaucoup de disques, de vieux livres, il y a aussi du design, mais il y a aussi cette identité qui est très présente, vous allez avoir des marchés plus brocantes, voilà, chaque marché a son identité, attire sa différente clientèle, et au sein de ces marchés, donc chaque marché privé, vous avez, on peut trouver le marché Paulbert Serpette, qui existe depuis l'après-seconde guerre mondiale, qui a beaucoup évolué, et qui est intéressant parce que de tous les marchés, c'est celui qui est le plus, design, qui est le plus haut de gamme, on a la chance, c'est un marché qui attire encore une très belle clientèle de collectionneurs. Et je dis pas ça parce que j'y suis, mais c'est vrai. En fait, aujourd'hui, on a la chance, quand on ouvre le rideau, on peut rencontrer, c'est pas un secret, il y a eu Kelly Whistler qui est venu compléter des pièces sur ses chantiers il y a encore 2 semaines. Ça reste quand même une des plus grosses archers décoratrices américaines aujourd'hui. Et ça attire encore cette clientèle-là qui vient chercher des pièces d'exception, des choses différentes, chercher du haut de gamme, de la surprise. J'ai aussi des collègues qui vont pratiquer encore le métier différemment, qui vont compléter cette offre-là avec un regard sur la céramique. Parfois, il va y avoir un peu plus de bordel. Parfois, il va y avoir des choses plus rangées comme nous. Et tout ça créer une identité, un vocabulaire qui est assez passionnant.
Et unique au monde, non ?
Je pense que la proposition est assez unique.
Et ce marché aux puces, il y a depuis combien de temps ? Cette rue des Rosiers, là.
Cette rue des Rosiers, je crois que ça s'est fait tout au long du XXe siècle.
Je pense que ça commence vraiment au début du XXe, au moment où, en fait, t'as les... Et même peut-être fin 19, parce qu'en fait, en gros... à la base, enfin, Saint-Ouen, c'est pas une prairie, mais c'est une cité très ouvrière, où en fait, en gros, les gens sont sur les trottoirs pour déballer ce qu'ils trouvent, quoi.
Et quand vous dites que c'est des marchés privés, ça veut dire quoi? C'est régi par qui? Il y a des propriétaires. D'accord.
Le propriétaire actuel de Paulbert Serpette, c'est Jean-Cyril Boutmy.
D'accord.
Qui est aussi, l'heureux patron de...
Studirama.
Studirama, qui a acquis le marché maintenant il y a quelques années.
D'accord. Et donc lui, vous payez un loyer. Tout le monde paye un loyer à cette personne-là. D'accord.
Voilà, c'est le bailleur.
Et les murs ne vous appartiennent pas. Vous achetez un bail.
Bail commercial.
Pendant 3, 6, 9, c'est ça?
Exactement. Il y a plusieurs particularités. Tout ce qui est possible exactement comme avec chaque bailleur.
Ok. Et comment on achète un stand là-bas? Comment ça se passe très concrètement?
Là aujourd'hui, la personne, c'est par exemple un nouveau marchand souhaite s'intégrer. Il faut contacter la direction du marché, qui est gérée par Stéphanie Duplex, qui est là maintenant depuis 5-6 ans. Qui est là, qui connaît son marché, et il faut lui présenter son projet. C'est à peu près comme ça que les nouveaux marchands arrivent. D'accord. Un peu comme nous, même quand on s'est développé, là on s'est agrandi, Stéphanie connaît l'identité de son marché, c'est aussi où elle va, il y a beaucoup de travaux en ce moment, c'est en train de changer. Donc il faut lui présenter son projet et elle va réfléchir, est-ce qu'il y a des places de disponibles, est-ce que il y a un endroit où implanter ce nouveau marchand, est-ce que ça va être complémentaire. L'idée, c'est pas non plus de se faire concurrence, je crois qu'ils essayent aussi d'être attentifs à faire qu'on se retrouve pas à être trop redondant dans les mêmes allées. Et puis aussi garder la magie de certaines allées qui ont des identités, même au sein de Paulbert Serpette, c'est assez intéressant. Serpette qui a un marché fermé, qui a une identité encore un peu différente que de l'allée 6. Mais c'est intéressant parce qu'on s'imagine pas, par exemple, que la tendance de la bouclette qu'on voit partout, nous on l'a vu naître chez des collègues comme Alexandre Guimain, qui a été un des premiers à...
C'est quoi la tendance de la bouclette?
Il y a la bouclette partout maintenant, même la redoute.
Sur ses canapés.
D'accord.
Maintenant, parfois, on nous le reproche un peu, mais ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu des collègues vraiment mettre ça en revêtement, avoir cette idée-là, trouver que c'était beau, que ça flattait les, parce qu'on restaure tous les fauteuils. Et en fait, on a vu cette tendance, on a suivi, on a trouvé ça beau. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, en fait, c'est les archi et déco, les magazines sont dû regarder, assez joli. Puis ça a commencé à prendre de la place. Et maintenant, même la Redoute met de la bouclette. Et en fait, c'est assez drôle. Par exemple, la tendance 80, qui est de plus en plus présente, qui devient grand public. Les gens se réapproprient cette décennie. On a vu des collègues vraiment défendre ça, et au début ils étaient peut-être vus un peu comme des curieux. Personne ne comprenait, comme nos collègues de Remix à côté, personne ne comprenait que leur amour de Stark. Et maintenant aujourd'hui, ça y est, et c'est assez drôle parce qu'on s'imagine pas que sur un marché d'antiquité, il peut y avoir des tendances aussi présentes aujourd'hui qui font la mode et qui font la tendance. C'est assez, je pense que c'est un endroit assez inspirant. Je crois que même nous, en tant que marchands, quand on peut se balader, parce qu'on est toujours très concentré sur nos stands, on est quand même toujours surpris et agréablement surpris de la qualité des collègues et de ce qui est proposé.
Mais c'est ce qui est génial dans, de toute façon, le marché Opus de Saint-Ouen, c'est fabuleux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait une école de mode et tous nos profs nous disaient allez là-bas, parce que c'est une source d'inspiration immense. J'y vais jamais sans croiser un directeur artistique de grande maison, que ce soit Jonathan Anderson, Jacques Musse, ou des grands rédacteurs en chef, etc. C'est assez impressionnant. Ça draine une foule de gens des industries créatives qui est complètement dingue. Vous, c'est quoi votre proposition quand vous êtes arrivé sur le marché? Qu'est-ce que vous avez défendu comme idée quand vous avez passé votre entretien devant le propriétaire?
Alors, c'était l'ancien propriétaire, et Aurélien est arrivé. Il y avait ce goût de la reconstruction qui était présent, ce design d'après-guerre, et aussi aller défendre une partie plus méconnu de Garish. Mais ça, je vais te laisser raconter parce que ça a été sa passion et quelque chose vraiment d'intéressant et de singulier chez Aurélien, où il collectionnait ça à la maison. Et peut-être que ceux qui travaillaient sur Garish ne s'y intéressaient pas beaucoup. Et Aurélien a été le premier à dire, mais en fait, ça mérite beaucoup un intérêt, et il y a un intérêt historique là. Et il a vraiment construit le marché sur ça. Je vais te raconter.
En fait, en gros, quand on a pris le premier stand, il était question de défendre, c'était encore à l'époque où tu pouvais être coopté, où il fallait être quasiment coopté.
D'accord.
Ça a un peu changé, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que les gens sont aussi
plus ouverts. Ouais.
Exactement. Et en fait, en gros, si tu veux, je m'étais fait la réflexion que Pierre Garish, qui est un designer français, mais qui vaut, je pense, pour tous les créateurs, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la vie, en fait, il y a des phases créatives, et en fait, il y a des parties où les gens vont vraiment travailler dessus parce qu'en fait ça tombe presque sous le sens, et d'autres certaines où tu sais pas pourquoi, par manque de temps, parce que par rapport aux autres galeristes, etc. Mais toute la période, si tu veux, 60-68 de son travail était absolument pas touchée. Vraiment, les gens ne s'y intéressaient pas, et je pense que la documentation manquait un peu. Et effectivement, c'est une partie où moi j'avais le sentiment que dans son travail, on arrivait à une vraie forme de radicalité, avec quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus évident, et une construction beaucoup plus façon trait de crayon, quoi, un truc presque intuitif. Et je me disais que ça valait le coup de le travailler. Et donc, en fait, si tu veux, en gros, on est arrivé sur un marché avec une proposition un peu différente, c'est-à-dire toujours dans une sorte de même veine, ce français des années 50-60, tu vois, qui battait vraiment son plein quand on s'est installé, mais avec en fait une vue un peu différente, ou en tout cas une volonté de défendre quelque chose d'un peu différent et de monter ce marché qui n'existait pas.
D'accord, donc créer le marché sur le Garish 50-60.
60-70.
60-70, pardon.
Et il faut rappeler aussi qu'au moment où on s'installe, il y a une dizaine d'années, la mode est aux années 50. Il y a une redécouverte très forte de la part de la clientèle, notamment française, qui va se réapproprier des signatures françaises des décennies 40, 50, 60, ce qu'on appelle un peu le 50. Il y a eu l'expo Movie Boom à ce moment-là, donc il y a eu un intérêt, il y a eu des relais, il y a eu des grands marchands.
C'est qui années 50 alors, les designers des années 50?
Bah, on va parler de... C'est intéressant parce que je vais quand même intégrer Gabriel, même si René Gabriel, même s'il meurt en 1950, mais il est tellement important justement là-dedans. Mais dans les années 50, on va avoir Gascoin, évidemment, qui est vraiment le passeur de la reconstruction, c'est-à-dire l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment où on reconstruit la France et le début de la modernité. Et ensuite, la jeune génération, on va avoir Garish, Paulin, Joseph-André Motte, des gens, des groupes comme l'ARP, qui vont incarner ces décennies-là. Et je pense que le public français se rend compte que ces choses qu'ils ont pu voir peut-être chez les grands-parents, en fait, a un intérêt historique, c'est un bout de notre patrimoine, ça raconte une spécificité qui n'a rien à envier à d'autres mouvements. La seule chose, c'est qu'en France, on a des musées pleins, et qu'on a parfois du mal à regarder nos arts décoratifs à la place où ils devraient être. Les Américains ont fait un travail beaucoup plus tôt sur leur propre design. En France, on a un petit peu du mal, c'est encore en cours.
Ouais, le problème, non mais le problème de la France, c'est qu'on est, il y a trop d'histoire, quoi. On est surchargé d'histoire, alors que les Américains, ils ont quoi? Ils ont 300 ans d'histoire. Sinon, c'est la raison, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est, par exemple, quand tu remets en contexte Le Corbusier ou Perriand et les innovations de Perriand. Aujourd'hui, il est de bon ton de reconnaître que Perriand est un des plus grands designers du XXe siècle. Néanmoins, si on le remet en contexte dans sa période, il y a quand même des mouvements artistiques qui sont très forts. Mmh. On a quand même des gens comme Picasso et Matisse qui sont en train de travailler. Donc, en fait, je trouve ça pas complètement fou qu'on ait pris du temps, que peut-être, en fait, ces grands designers, même dans les années 50-60, aient pu être un tout petit peu dans l'ombre de grands créateurs.
Bien sûr.
Néanmoins, aujourd'hui, même dans la création contemporaine, on se rend compte que le design est enfin en train de se hisser au niveau des grands arts. On est en train de se rendre compte qu'en fait, dessiner une chaise, ça mobilise autant de savoir-faire, autant de génie créatif que de faire une toile. Et en fait, je pense qu'on y croit. Il y a des choses qui attiennent. La question, je discutais avec un marchand qu'on apprécie et qui est vraiment quelqu'un de brillant, et qui m'a dit cette phrase, le design ne permet pas la transcendance. Et j'ai trouvé que c'était un sujet de conversation passionnant, j'ai pas la réponse, et je suis pas certain que le design ne permette pas la transcendance. Je pense qu'il y a des pièces de design qui permettent la transcendance, mais ça c'est une question...
Parce que dans la transcendance, quoi, c'est l'émotion, qu'est-ce que t'entends par la transcendance?
Je pense que sans doute ce qu'il entendait lui par la transcendance, c'est provoquer une réflexion, comme par exemple tu es face à un tableau, une œuvre comme Le Cri de Munch, ou par exemple même dans les choses plus connu, tu vois, si tu vas chez Vermeer, il y a une volonté à un moment donné d'aller plus loin que le système représentatif et d'aller provoquer une métaphysique, une réflexion, un choc réflexif. Et on a tendance à penser que ce qui est évident pour un tableau, parce qu'il n'y a pas. Enfin, la fonction d'un tableau, c'est peut-être de décorer ton mur, mais en vrai, tout le monde s'accorde à dire Picasso, c'est pas juste décoratif, il y a une réflexion, il y a une pensée humaine qui est derrière. Et en fait, le design, souvent, je crois qu'on l'a résumé à sa fonctionnalité en disant, en fait, une chaise, c'est d'abord fait pour s'asseoir. Et néanmoins, je crois quand même que, typiquement chez Perriand, il y a une vision sociale. Je sais pas s'il y a de la transcendance, en tout cas chez Perriand, mais il y a une vision sociale. Il y a une idée très précise de ce qu'est l'homme, la femme et l'enfant dans un espace social. Et quand elle va dessiner une banquette, quand elle va dessiner une chaise, elle a ça en tête. Et on voit bien, on est au-delà de la fonction. On est déjà dans une réflexion, dans un ordre du monde. Et ça, pour moi, on est sur le champ artistique. On n'est plus juste sur le champ de l'ingénieur.
Mais c'est toujours le même sujet de où est-ce qu'on met le curseur entre l'art et les arts décoratifs ou les arts appliqués. C'est toujours cette même question philosophique, j'imagine.
Oui, c'est intéressant, mais par exemple, si ma sœur était là, alors la pauvre va se dire, tiens, je l'ai citée et invoquée, elle s'appelle Élodie Pradier, elle est brillante. Je pense qu'elle résume bien ces discussions qu'on a, où en gros, c'est elle qui m'a alerté une des premières en disant, mais qu'est-ce que doivent les collections de musées, ce que doivent les collections de musées, la grande peinture aux arts décoratifs? Et on voit bien que la tapisserie était limite plus importante que les peintures au moment où c'était fait dans les 16e, 17e français. C'était des même au Moyen-Âge, c'était des pièces qui racontaient la puissance de son propriétaire et même le mobilier, il était important. La peinture est montée en force dans les siècles qui vont suivre, mais c'était pas du tout évident. Donc en fait, on voit bien qu'en fait les arts décoratifs n'ont pas toujours eu la place qu'elles ont aujourd'hui dans notre perception, et c'est en train de changer. Bon, je pense qu'on voit bien, c'était assez rigolo, il y a eu Art Paris et le PAD, on voit bien à quel point maintenant les frontières, les clients traversent les deux salons de façon peut-être beaucoup plus facile que nous marchands.
Beaucoup plus naturelle. Comment s'est reçu ton histoire, enfin ton projet, Garish, là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Ça cartonne tout de suite? Tu fais fortune?
Non, je fais pas fortune. Je fais pas fortune parce qu'en fait, tout l'argent qui est rentré est directement
réinvesti. D'accord, pour acheter de nouvelles pièces.
Pour acheter de nouvelles pièces déjà, pour acheter de la documentation surtout. En fait, et pour nourrir le propos et pour aller un peu l'épaissir, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de secret pour faire correctement ton travail d'antiquaire. Si t'as envie de chiner non pas à l'œil, mais d'aller chercher en fait des pièces qui pour toi te semblent intéressantes au moment où tu veux les chercher, en fait, il faut que t'aies une base documentaire. C'est inévitable. Tu vois, t'es obligé de travailler avec ça. Donc nous,
je comprends pas. Je comprends.
En fait,
mais expliquer le.
Beaucoup de chance, ouais, le job. En fait. Au sortir de la guerre, tous les magazines dédiés à l'ameublement ou à la maison, tu vois naître un nombre incalculable en fait de titres de magazines, Les Arts Ménagers, la Maison Française, Meubles et Décors, Arts et Décorations, certains titres qui existaient en fait pendant l'entre-deux guerres, d'autres en fait qui naissent au sortir de la guerre, mais en gros si tu veux la plupart de notre production française de 1945 à 1970 ou 75, la plupart des choses ont eu au moins un passage en magazine.
D'accord.
Donc c'est un peu, je pense que ce sont un peu les seules décennies qui sont à ce point documentées. Donc en fait, tu peux aller faire des recherches. Enfin, c'est vraiment plus facile.
Quel est l'intérêt de ces recherches, cette documentation?
Bah déjà en fait, ça te permet de faire ton œil. C'est-à-dire en fait, c'est, mine de rien, de prendre 10 ans de meubles et décors ou d'art ménager, en fait, ça te permet de comprendre exactement c'est quoi cette décennie, en fait, vers quoi elle tend et surtout quand est-ce qu'elle s'arrête,
ouais,
d'un point de vue stylistique, j'entends. Et puis c'est surtout en fait, tu te familiarises au dessin, tu finis par reconnaître la patte d'un designer en fait à 2 ans près, ouais, pour un changement de modèle, etc. Et puis ça vient nourrir en fait. Ça vient nourrir ton corpus d'images. Et en fait quand tu vas sur une brocante par exemple ou sur un déballage marchand qui est un groupement de marchands en province qui propose comme une grande brocante mais professionnelle, en fait si tu tombes devant un fauteuil, ben en fait t'as plus de chances de savoir ce que t'achètes en ayant fait de la documentation au préalable,
bien sûr,
en fait, que de l'acheter simplement à l'œil en disant c'est joli, mais t'auras rien à raconter, tu vois. Et là, d'un seul coup, en fait, en trouvant un fauteuil, je te dis une bêtise, mais par exemple, un créateur français qui s'appelle Louis Paolodi, bon, bah, en fait, en ayant fait de la documentation, tu sais qui est Louis Paolodi, quand est-ce que sort, en fait, ce fauteuil, à quel moment il est édité, et donc, en fait, une fois que tu l'as acheté, tu peux le vendre à tes clients en disant que c'est un fauteuil de Louis Paolodi.
En racontant une histoire.
Exactement. Et tu le recontextualises surtout.
En gros, j'ajouterais, c'est-à-dire que sur la partie historique de notre métier, la documentation permet d'une part l'authentification. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'on essaye de raconter, c'est que notre temps, c'est des heures de travail. C'est des heures de travail aux arts décoratifs, du temps de travail pour pouvoir identifier la pièce, c'est-à-dire pouvoir dire qu'une chaise de Gascoigne c'est une chaise de Gascoigne ou un fauteuil de Garish c'est un fauteuil de Garish. En fait, il n'y a pas forcément de signature. On n'est pas dans un rapport où l'artiste a signé sa toile. Donc, le seul moyen d'identifier, c'est d'avoir tout simplement des documents qui prouvent ça. Et en fait, c'est pas du tout, ça s'improvise pas. C'est assez précis. Je pense que la formation d'historien nous a beaucoup accompagné là-dessus. Mais la première chose, c'est celle-ci, c'est l'authentification des pièces.
Ouais.
Et ensuite, évidemment, plus tu as la documentation, plus tu élargis ton corpus d'authentification. Et ça, c'est des heures de boulot. Et Aurélien, il a un œil notamment magnifique là-dessus parce qu'il l'exerce. En fait, il fait
magnifique.
Non, mais il fait. T'as l'œil en éventail, comme dirait Perrian. En fait, il fait ça depuis qu'il a 15 ans, c'est-à-dire qu'il a le nez dans des magazines sans savoir que personne ne peut rattraper à ce point-là. Et il est capable. Je l'ai vu faire, c'est-à-dire un bout de piétement dans une brocante, de dire s'accroupir et dire là derrière il y a une chaise de. Parce qu'il va reconnaître le piétement, l'angle, et en fait, et de savoir ça, il y a eu.
Non, mais chaud, Aurélien.
Non, mais c'est un vrai savoir.
On se rend éventail, on dit.
On se rend pas compte, et après, parfois, on pourra déconstruire, si tu veux, les fantasmes des particuliers par rapport à ce qu'ils pourraient avoir chez eux et certains prix de vente. Notamment, peut-être, je regarde pas l'émission, mais peut-être qu'il y a la télévision, à faire croire aux gens qu'ils ont des trésors, mais en fait, avant que ça atteigne ce prix, il y a quand même beaucoup d'étapes, et notamment l'authentification. Parfois, c'est dans le goût d'eux. On a beau expliquer aux gens, mais en fait, c'est pas du tout ça.
Ouais.
Et je trouve que t'es une des personnes, par rapport au savoir que t'as, t'es une des personnes les plus patientes. C'est-à-dire que n'importe on en a un qui viennent tenter de faire authentifier des pièces, et Aurélien n'a jamais pris personne de haut, il explique toujours, en fait, ça sera pas Garish. Je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi, et je trouve que ça, c'est tout à ton honneur, parce que t'es pas obligé de prendre toujours ce temps-là pour...
Non, t'es pas obligé, mais
surtout
en fait,
qu'il y a une déception à gérer en face, qui est pas de notre fait, mais...
En fait, on, effectivement, on dit, maintenant, on part du principe que tout ce que tu as chez toi, chez tes parents, chez tes grands-parents, potentiellement, tout vaut de l'argent. Et puis, de toute façon, tu peux te faire de l'argent sur tout parce que tu peux le vendre par toi-même. T'es même plus obligé de faire venir un commissaire-priseur pour expertiser, en fait, quand les grands-parents décèdent ou quand les parents vendent la maison. Et donc, en fait, il y a une espèce de do-it-yourself un peu pour tout. Et en fait, à un moment donné, le particulier qui se dit, ah oui, mais effectivement, et puis mes parents m'ont dit que ça avait coûté vachement cher quand ils l'avaient acheté dans les années 60 quand ils se sont mariés, donc en fait ça doit valoir encore des sous, bah malheureusement, en fait, quand tu allais dans un magasin en 1960 pour acheter ta salle à manger ou ton séjour, enfin ton salon, tes fauteuils, etc., et ben en fait tu vas te rendre compte, mais aujourd'hui, parce qu'en fait, sur le moment, tu peux pas le choisir, tu le décides pas. C'est qu'en fait, t'avais le choix entre deux bahuts. Et ben, en fait, tes parents ont pris celui le plus cher, à l'époque. Et en fait, malheureusement, celui qui est le plus cher, aujourd'hui, en fait, personne ne l'attend. Personne ne l'attend et tout le monde s'en fout. Par contre, celui de gauche, ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était un succès d'édition. Et aujourd'hui, même les Japonais le veulent chez eux.
C'est le marché. Ouais.
C'est juste le marché. Et à un moment donné, en fait, tes parents en 1960, quand ils se marient à 22 ans, ils disent pas attends, mais c'est qui le designer, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il fera dans 20 ans. Non, en fait, ils cherchent par rapport à la question de la taille, par rapport à la question de la couleur, ouais, etc. Et voilà. Et en fait, il faut réussir à l'expliquer aux gens. C'est pas en fait perdre du temps, en fait, que de faire de la pédagogie, en disant bah écoutez, là en l'occurrence, la salle à manger, malheureusement, c'est pas un modèle qui est recherché aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de valeur marchande concrète par rapport à ça, mais on voyait quand même des photos du salon et de la chambre à coucher, sait-on jamais, tu vois. Et puis c'est important. Enfin, moi je me dis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et qui nous demande, déjà les gens sont toujours hyper sympas, en fait, donc oui, prendre le temps pour leur expliquer. Et puis de rien, c'est excuse-moi, je te coupe, mais c'est aussi les sensibiliser à notre expertise.
Bien sûr.
Tu vois, c'est une forme de pédagogie.
Et puis sur un malentendu, il peut y avoir des bonnes surprises. Et surtout, c'est vous êtes des commerçants quand même avant tout.
Bien sûr.
Enfin, un galeriste, c'est un commerçant et c'est quelqu'un qui aime les gens et qui leur vend des trucs, quoi. Donc,
bien sûr.
Un commerçant, il se doit d'accueillir les gens comme il se doit.
Mais j'irais même plus loin, commerçant, c'est-à-dire la base de notre métier, c'était des commerciaux. C'est-à-dire que je suis comme un vendeur de voitures, sauf que moi, mon produit, il est différent, mais je n'ai pas de snobisme sur ce métier de commercial que je trouve passionnant. En fait, c'est quand on vend un produit, j'ai ma petite sœur qui travaille notamment qui est dans la vente de voitures, c'est sa passion. Mais en fait, quand on parle de nos boulots respectifs, il y a pas de en fait, chaque vendeur met quand même de lui dans chaque vente. C'est assez assez intéressant à quel point on a même parfois on a tous expérimenté des vendeurs plus agressifs que d'autres, etc. Mais néanmoins, on se dévoile tous, on met notre cœur sur la table et c'est pas on a l'impression que c'est pas authentique. Si même la vendeuse d'une boutique, on peut pas. On est dans une interaction. Le corps est mobilisé, la voix est mobilisée. On est sur la vente et notre boulot, la base, tu as raison, c'est ça, c'est on vend, on est des commerciaux et on a nos produits et il faut c'est ça dont on vit. Et on fait vivre plein de gens grâce à ça.
Mais c'est-à-dire surtout qu'en fait, on a des horaires d'ouverture, tout simplement, et qu'en fait, jusqu'à 18h, t'es tenu en fait d'être sympa par rapport aux gens qui se déplacent jusqu'à chez toi. En fait, c'est tout bête, on est les ambassadeurs à un moment donné de ce qu'ils voient. Alors sans être déguisé en Donald ou plutôt, tu vois, mais concrètement, on est là jusqu'à 18h pour la clientèle.
D'accord.
Donc, et ça fait partie aussi, en fait, de notre métier, de parler à des gens qui sont pas venus là pour acheter, mais qui espèrent en secret que le bahut de mamie coûte 10 milliards de dollars. Tout simplement.
Trop bien. Ce que j'aime bien faire pour avancer, c'est peut-être parler des différents milestones, enfin, des différentes étapes, parce que, mine de rien, ça fait une paire d'années quand même que tu es là-bas, maintenant. C'était 26 ans, j'étais à 37, donc ça fait 11 ans.
Vraiment installé en nom propre, j'avais 28.
D'accord. Ouais, mais donc ça fait quand même quelques
ouais.
années.
Ouais, mais ça fait, oui, ça fait 10 ans.
Ouais. Ouais. Et le, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les grands moments? Et à quel moment toi, t'as rejoint l'aventure full time?
Oh, il y était. Hein. Il était entre minuit et deux. Hein. Enfin, c'est ouais. Mais il y était. Il y était dès le départ.
Full time, c'est intervenu à la moitié du parcours.
Ouais.
C'est-à-dire que là, la galerie va célébrer les 10 ans, et moi, c'est intervenu maintenant, il y a bientôt 5 ans.
D'accord.
Où là, vraiment, où je viens physiquement sur place.
C'est quoi le déclic?
Donner de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est ouais. que il y a.
Ça prenait de l'expansion.
Ça prenait de l'expansion, mais en fait, le vrai déclic, c'est que oui, il fallait tenir la boutique et non. Je pense que c'est aussi simple que ça. En fait, la boutique, enfin, la galerie se développait et évidemment il y avait tout ça. Mais je crois que le premier moment où je suis sur le, où j'ouvre le rideau, où je le fais, c'est qu'il faut vendre, rien n'est pas disponible et j'ai ce goût-là. J'aime bien ça. J'ai été pris au jeu dès le premier week-end. J'ai trouvé ça
amusant.
Plus qu'amusant, j'ai trouvé que le rapport de vente, cette danse-là, est passionnante. C'est voir les gens se révéler à eux-mêmes et acheter une paire de fauteuils où il y a une vraie magie, les accompagner là-dedans. En fait, une vraie vente, elle commence par... elle nous échappe même en tant que vendeur. Un bon vendeur, c'est accompagner les gens à se rendre compte que la vente est déjà faite. Et ça, c'est magique. Quand on voit quelqu'un passer devant le stand, je peux savoir quasiment tout de suite si, je sais pas si ça va conclure, parce qu'après, il y a plein de choses comme le prix, le budget, la livraison, il y a beaucoup de choses
techniques. Mais tu sens qu'il y a un coup de cœur,
Ça commence avant l'histoire, avant tout. C'est comme une rencontre amoureuse. Enfin, les gens, c'est assez.
Coup de foudre.
Ouais. C'est aussi simple que ça. Ah! Et dès qu'il y a ce A, moi je trouve ça passionnant.
Ouais.
Après, où est-ce qu'on va aller, on verra. Mais ça, c'est passionnant.
Ok. Peut-être les milestones. Aurélien, raconte-nous les grandes étapes. Parce qu'au début, donc, tu t'es très focalisé sur Garish.
Ouais, exactement.
Mais à un moment donné, tu fais évoluer les choses. Parce que j'imagine que c'est comme tout, on se lasse aussi.
C'est très juste. En fait, en gros, on a vraiment installé l'affaire sur du design français. D'après-guerre, donc vraiment 50-60 avec une grosse prédilection pour le travail de Garish sur la période 60-70. En fait, le temps de faire le tour de tout ça, en fait, ça prend quand même un peu de temps. C'est-à-dire que ça c'est parce qu'en fait, entre le premier fauteuil que tu trouves, la documentation que tu fais, la deuxième paire, la troisième paire, la cinquième paire, la dixième paire, la quinzième paire, en fait, c'est des fauteuils qui sont différents, ça te raconte pas la même histoire, t'es pas le même marchand non plus. Quand tu l'as dans les mains, en fait, la première année ou la cinquième année, et en fait, ça raconte quelque chose d'un peu différent. Et en fait, parallèlement à ça, donc en plus de travailler sur cette période de Garish, évidemment, en fait, on ouvrait sur d'autres périodes. C'est-à-dire qu'on allait chercher aussi les informations sur les années 70, vraiment le plein cœur des années 70 avec du chrome, des laques blanches, etc. Vraiment des trucs un peu psychédéliques, bien assis, disons. Et à côté de ça, on allait voir vraiment sur le pan de reconstruction tout ce qui va être vraiment 45-48, qui est une année, enfin qui sont quelques années très courtes et qui auraient pu devenir en fait un style français. Mais sur le même modèle que le style scandinave. Et en fait, ça, par exemple, on l'a creusé ces dernières années avec Jérémy, c'était assez intéressant, où en fait, à un moment donné, tu te rends compte que le style reconstruction, donc vraiment juste avant 50, au moment où la génération de Garish, en fait, va prendre complètement toute cette place-là et va réinventer le style français, enfin en tout cas, le style 50, va lui donner son identité visuelle. En fait, avant, tu as des créateurs qui travaillent avec du bois, mais comme les Scandinaves ont fait, mais eux, alors que le style est resté jusque dans les années 90, c'est quand même fou. C'est-à-dire que c'était vraiment les mêmes meubles. Il n'y a pas eu d'évolution sensible. Nous, en fait, notre phase dite de meubles scandinaves à la française n'a duré que 3 ans, puisqu'en fait, très rapidement, l'État boostait la sidérurgie, le bois, etc. Et donc, en fait, tous nos créateurs 50 ont travaillé justement avec ces matériaux. Donc, si tu veux, en gros, parallèlement au travail sur Garish, on ouvrait aussi sur la réflexion, on ouvrait en fait sur d'autres pièces qu'on présentait aussi à la clientèle. Donc, si tu veux, ça a toujours été un peu mouillé. Il y a eu un gros solo show, si tu veux, mis en en scène par Isabelle Stanislas pour
les... Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, la question, c'est les grandes étapes en 10 ans, les grands moments. Il y a l'ouverture avec tout le travail qui est fait sur le design français. Je pense qu'un grand point de bascule, c'est justement la collaboration avec Isabelle Stanislas, qui est une de nos plus importantes architectes françaises aujourd'hui. Et en fait, cette collaboration a vraiment fait jaillir la création contemporaine pure. C'est-à-dire qu'elle est redessinée un stand au moment des 20 ans
Duel déco.
Ça, c'est un grand tournant, c'est-à-dire même pour nous, en fait, ça a ouvert une fenêtre, nous a donné une vraie légitimité. On remercie Isabelle pour ça, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore dans nos relations, continue de travailler avec elle.
Comment vous avez décroché ça?
Aurélien aimait son travail. Le
plus simplement du monde. Je suivais son travail avec beaucoup d'intérêt et je trouvais que c'était une des rares architectes françaises à avoir une vision hyper singulière et bizarrement assez masculine. Et je trouvais qu'à chaque fois, les matériaux étaient exactement les bons matériaux pour les chantiers. La finition était toujours extraordinaire. Et en fait, je lui envoie un message en lui disant qu'en fait, on va célébrer à Paulbert Serpette les 20 ans du LDECO et que l'occasion serait trop belle en fait de faire une collab avec elle. Je reçois un message, donc j'envoie ça, je pense, à midi, un peu fiévreux, hein, parce que, en fait, la légitimité, même si les autres, en fait, te l'octroient, t'as quand même du mal, enfin, à un moment donné, elle s'impose à toi, mais le temps qu'elle soit en face de ton visage, ça met quand même un peu de temps. Et en fait, donc, je lui envoie le message, humblement, elle me répond le soir même, elle me dit qu'en fait, elle trouve l'idée qui est super, et en fait, qu'on se rencontre autour d'un café pour en discuter. Et donc, en fait, on y va, et à côté de ça, en fait, on travaille aussi Pierre Frey, qui est un éditeur de tissu pour en fait la partie tissu, et en gros pour les 20 ans du L, Isabelle déjà prend le mobilier de Pierre Garriche, celui que j'aime tant, et elle le met en scène, ce qui est quand même génial, et Pierre Frey les habille, c'est-à-dire que d'un seul coup t'as des tissus hyper précieux avec des matières hyper naturelles, hyper belles, et là pour le coup ça a vraiment lancé quelque chose. En tout cas, disons qu'on s'en est servi de tremplin pour aller conquérir une nouvelle posture presque dans le travail, en fait. Ça a ouvert quelque chose, ça a déclenché quelque chose.
Mais c'est surtout qu'en fait, là, c'est souvent là, c'est vraiment un des conseils que je peux donner aux entrepreneurs quand on monte un business, c'est à quel point les collaborations et les dialogues oxygènent et racontent au contraire la marque. Et pour nous, à chaque fois, les grands moments viennent aussi de ces collaborations qu'on a eues. Isabelle nous a autant révélé que nous, on était ravis d'accueillir son travail. C'était autant elle que nous. C'était assez étonnant, ça. Et le deuxième, c'est marrant parce que justement, pour moi, le deuxième moment qui est important, c'est l'expo avec de Leo Dorfner, c'est-à-dire un artiste contemporain qu'on va exposer. On va assumer pleinement que c'est un créateur, c'est un artiste qui travaille l'aquarelle, qui est représenté en galerie et qui accepte d'avoir un show chez nous et d'exposer ses dessins et qui comprend notre travail. Et là, ça a vraiment tout changé parce que ça nous a autorisé à défendre cette création, ça nous a vivifié. Et je crois que c'est la première fois à quel point c'était chez nous. C'est-à-dire qu'on regardait ce stand en disant c'est comme à la maison, parce qu'on a des œuvres de Léo et on a aussi des pièces anciennes et historiques. Et là, soudain, je crois que entre Isabelle et ça, notre identité est vraiment née pleinement. Et je crois que l'autre milestone,
comme je dis,
c'est je crois qu'aussi
Emma Stone.
C'est la sortie du livre coécrit par Aurélien, c'est-à-dire qu'il a co-signé la monographie sur Pierre Garriche aux éditions Norma. C'est plus de 10 ans de travail, c'est un acharné, c'est plus de 10 ans de rangement pour moi d'archives derrière lui quand il écrivait la nuit. Et ça a changé parce que, je pense qu'il a exorcisé son... c'est le moins important, mais il a exorcisé son obsession. Et surtout, ça l'a fait naître en tant qu'auteur, c'est-à-dire que ce n'est pas... Maintenant, il est marchand, mais c'est aussi devenu un auteur qui travaille sur son prochain ouvrage, et ça a vraiment changé aussi notre dimension. C'est-à-dire que le travail historique qu'on fait, même quand Aurélien commence à écrire sur la création contemporaine, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire des arts décoratifs et des arts qui est passionnante. Chaque artiste qu'on défend, chaque texte qui est écrit prend sens dans son travail, lui, d'historien. Et moi, je suis pas du tout historien à côté, je suis vraiment un marchand, et j'apprécie ça donne une dimension à la galerie qui est complètement différente, qui fait notre identité. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient à la fois galeriste et historien comme Aurélien Lay. Et donc ça, pour moi, c'est des trois grandes étapes qui ont vraiment forgé qui on était, ce qu'on était. Après, il y a plein de choses. Il y a l'expo avec Yona Vautrin, qui a vraiment, pareil, qui nous a propulsé ailleurs. L'expo Perian qu'on est en train de préparer, il y a une belle visibilité presse. C'est la première fois qu'on en a autant parlé. En plus, c'est un vrai... de belles pièces qu'on sort. Donc,
vous le faites sur votre stand toujours, hein, l'Expo Périan, Garich, etc. C'est toujours...
Exactement, sur nos stands maintenant.
Ouais, sur
on
vos
a
stands.
Ouais, on a quasiment 120 mètres carrés d'exposition, donc ça a vraiment changé en 10 ans aussi.
Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Non.
Non, j'écoute.
J'écoute.
Je trouve tout super.
Très bien. Aujourd'hui, ce moment où vous exposez la création contemporaine, donc c'est quoi le timing, grosso modo, la première expo contemporaine?
Il y a toujours eu une ou deux pièces de en créa. En fait, ça a toujours existé très vite. C'est-à-dire que ou soit on achetait, on a des dialogues nourris avec des artistes. On a la chance d'avoir ça dans notre entourage, donc ça a toujours le monde actuel a toujours fait partie de ça, que ce soit la copine qui est styliste, qui vient faire un shooting mode. En fait, cette créa a vraiment été toujours là.
Ouais.
Léo, c'était quand l'expo?
C'était en 2019, je pense.
Ouais.
Non, 2018, je crois.
2018?
Ouais.
Et le...
Oui, c'est possible.
Oui, c'était avant. Parce que 2019, c'est...
Oui, t'as raison.
Oui.
C'est ouais. Autorisé par le syndicat de Serpette, là?
On a le droit à Paul-Bert Serpette. Non, ouais, c'est, une bonne... c'est une bonne question. On reste à Paul-Bert Serpette, notre identité reste toujours l'ancien, le vintage, c'est pas la langue de bois. C'est vraiment 90% de ce qu'on expose aujourd'hui reste quand même des pièces anciennes. Néanmoins, il y a une forme de tolérance de la part de la direction si le projet fait sens, si c'est pas des produits manufacturés et si évidemment c'est pas de la contrefaçon. On n'est pas là, nous, chaque pièce ancienne qu'on vend, c'est l'ancien. Et quand il y a de la création, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui existe, sur laquelle on va faire une défense d'un travail. Et qui vient, on est toujours exigeant, c'est-à-dire qu'il faut qu'à Paul-Bert, ça prenne sens. C'est qu'on, ça raconte quelque chose, ça révèle autant l'ancien que l'ancien se révèle. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a cette exigence-là. Après, on a conscience aussi que sur notre développement, là où on se dirige, il y a un moment où Paul-Bert restera toujours Paul-Bert, un endroit qu'on adore, où on s'éclate et on va défendre ce design historique, mais on a conscience aussi que plus, comme je disais au début, la création monte en puissance, plus d'autres espaces vont être nécessaires. Donc il va falloir que cette aventure continue.
Hors les murs de...
Exactement, justement pour éviter en fait de trahir un petit peu notre mission originelle à Paul-Bert. On a toujours envie de défendre ce qu'on fait très bien.
Bien sûr. Ok. Donc ça, c'est les prochaines étapes, j'imagine. Donc là, vous avez racheté de nouveaux stands donc ces dernières années pour grandir, s'agrandir. Mmh. Mais c'est tout les uns à côté des autres ou c'est disséminé?
On a décidé de les avoir tous les uns à côté des autres.
Ouais, d'accord. Donc
ce qui est plus facile à gérer.
Ouais, j'imagine. Parce que autant de stands, ça veut dire qu'il faut des personnes dans chaque stand quoi à chaque fois. Et aujourd'hui, vous êtes que tous les deux? Vous avez des salariés?
On est que tous les deux pour l'instant. Et okay. On se pose la question. Je pense que
on se pose la question. On dit qu'il va falloir bientôt recruter une nouvelle personne parce que
on est très
les journées sont un peu courtes.
Ouais.
Les journées sont un peu courtes.
Mais d'ailleurs, là, vous êtes ici, c'est fermé là-bas?
Bien sûr. Ouais. Les horaires d'ouverture, en fait, en gros, les marchés aux puces de Saint-Ouen, tous, y compris Paul-Bert Serpette, sont ouverts le vendredi matin de 8h à midi, qui est originellement la matinée professionnelle, où en fait, en gros, les décorateurs, les architectes, etc., sont attendus. Et l'ouverture, attention, vous êtes particulier, vous êtes disponible le vendredi matin.
Ouais.
Vous pouvez venir le vendredi matin.
Il n'y a pas un badge, on vérifie pas ton cabis.
Absolument pas. Et en fait, sinon, les ouvertures, on est samedi, dimanche et lundi, de 10h à 18h, pour les ouvertures.
D'accord.
Mais sinon, en fait, il y a des jours de battement qui sont, historiquement ceux, qui sont là pour aller chercher la marchandise, pour envoyer en restauration, affaler le stand, etc. Donc les mardis, mercredis et jeudis, c'est fermé.
D'accord, ok. Donc ce qui est pas mal quand même. Enfin, mais après, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez bosser tous les jours de la semaine, quoi.
Ah bah, c'est exactement le piège.
Et c'est ce qui se passe.
Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour de princesse. Non.
Bah ouais. On bosse aussi le soir.
D'accord.
Okay. Non, mais ça rend passionnant, mais c'est vrai que là, l'équipe va devoir s'agrandir. Parce que si on continue sur ça, on a beaucoup de chance sur ce qui nous arrive depuis un an, et on a vraiment beaucoup de chance. Mais on va devoir s'agrandir.
Très bien. Et quand tu disais que, qu'est-ce qui se passe depuis un an? C'est quoi cet engouement? C'est quoi cette montée en puissance? Qu'est-ce qui s'est passé?
L'agrandissement a changé les choses, c'est-à-dire que en fait plus de visibilité, il fallait aussi être capable de mettre des choses dedans. Ce qui a changé en un an aussi, c'est que
attends mec, commence par le commencement. On pensait benoîtement qu'en prenant un deuxième stand à côté du premier, ça nous permettrait en fait de se dire bah, si on fait un stand, on peut en faire deux, c'est ça mobilise le même temps.
Bien sûr.
Et en fait, on pensait rentabiliser de façon extraordinaire les deux espaces. En fait, pas du tout. T'as deux boutiques, donc en fait, c'est deux fois plus de temps. Si tu veux faire les choses correctement, en fait, ça double ta charge de travail par semaine. Et en plus, on... non, mais parce que vraiment, en fait, on pensait mutualiser, ce qui n'est pas le cas. On n'y arrive pas.
On mutualise pas, en fait.
Et donc, en fait, vraiment, on se fait deux semaines en une pour les deux stands. Plus, Jérémy te l'a dit, mais on a pris un troisième plus petit en face. Donc, ça... Non, les semaines sont très, très courtes.
Mais je me suis marré parce qu'on a eu la chance d'avoir une jolie interview dans Paris vous aime, le magazine des aéroports de Paris. Et j'avais complètement oublié que j'avais dit ça, c'est-à-dire que la journaliste a dit justement, parce que c'est moi qui prononce cette phrase, qu'on va bientôt ouvrir la mezzanine, on va encore s'agrandir.
La mezzanine.
Mais en fait, elle existe, elle est prête, mais comme il nous manque des heures dans notre semaine, c'est comme le site internet qui est toujours... En fait, il y a des projets comme ça où en fait, là, clairement, il nous manque de... En fait, à minuit, je devrais commencer cet internet. En vrai, passé 35 ans, je vais être très motivé sur ma boîte. À un moment, je m'endors. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a envie de réaliser.
On a 35 mètres carrés à dispo pour augmenter la surface de vente.
Mais vous le faites pas.
On a juste pas le temps. En fait, de s'organiser pour ça.
Pour faire les travaux en haut et finir, parce que l'espace est magnifique, c'est très beau, c'est sous pente. Ça sera un magnifique showroom pour continuer l'univers. Mais non, ce qui se passe depuis un an, c'est qu'on s'agrandit, de fait. C'est aussi un moment où nous, on a acheté, pendant le confinement, on a une maison qui a été un moment pour nous, qui a été assez intéressant parce qu'on s'est mis à chiner au niveau local. En plus d'avoir des choses de collection, c'était une maison de résistants. Donc, on a mis nos collections là-bas, les choses qu'on achète pour nous, qui sont du design de reconstruction. Mais on a eu aussi envie de chiner local, que ça fasse sens. Et on a redécouvert le mobilier régional. On a redécouvert des choses qui sont pas forcément signées. Ce qu'on appelle un peu brocante chic, parce que ça permet aux gens de comprendre un peu. C'est-à-dire que c'est toujours des objets de brocante, mais qu'on sélectionne parce qu'il y a une belle finition, il y a une belle patine, il y a des choses qui sont intéressantes. Et en fait, ça a vraiment aussi, irrigué notre proposition, où en fait parfois il faut pas non plus trop se coincer dans l'historique, et les gens aussi viennent pour rechiner, pour découvrir, pour avoir l'objet surprenant. Et ça a été aussi une manière de se réinventer et d'oxygéner, encore une fois.
D'accord.
C'est ça par rapport à la...
Et qu'est-ce qui
a changé sur un an? Là, un, c'est effectivement genre l'agrandissement, et surtout en fait une proposition plus large. En fait, et ça, pour le coup, ça a été quand même un ticket gagnant.
Et je pense aussi l'expo des découpages et des créations de Yona Vautrin a aussi on est encore très très heureux de ce qui s'est passé. Ça, en plus de défendre une designer et une artiste qu'on apprécie humainement et sur son travail créatif, qui fait partie de ces designers très intéressants de sa génération, qui a inventé une lampe iconique, c'est le TGV. Je pense que c'est pas tous les designers qui arrivent à créer comme ça une icône d'une époque. Et en plus, pour nous, le fait qu'elle accepte d'être chez nous et d'exposer un travail qui aussi expérimental, aussi artisanal, a jeté un regard sur notre travail, nous a donné beaucoup de légitimité. Je pense auprès de clients ou de journalistes ou d'intervenants qui nous ont regardé différemment.
On s'est amusé surtout.
Ouais.
Avec ça.
C'est un grand sujet.
On gagne aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'on est plus mature, parce qu'on a tous eu aussi le confinement et on s'est vachement interrogé sur tout, mais aujourd'hui, ce qui était sans doute un peu moins le cas les années précédentes, où on était quand même très concentré, là on reste toujours très concentré et on travaille énormément, mais on se marre quand même plus.
Vous lâchez les chevaux, vous contraignez moins.
on se fait plus plaisir,
ouais.
En fait. On se fait plus plaisir. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on a gagné. Là.
Oui, et je crois qu'aussi, en fait, il y a le danger, c'est que quand tu commences à... Quand t'entreprends, tu peux être bourré d'insécurité et tes insécurités peuvent se manifester sur, parfois, une forme de paranoïa ou de stress. Tu vois, c'est pour ça que je précise, je dis que le travail de collaboration, en fait, fait beaucoup de bien et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est bien dans notre peau, on est bien dans notre boîte, elle nous ressemble pleinement,
ouais.
Dans tout ce qu'elle est, les développements sont très excitants et je pense que c'est la première fois à ce point-là qu'on est
aligné.
On a cette maturité, ouais. Ouais, on est parfaitement aligné, ce qui nous fait que...
Et ça se ressent. Ça se ressent, ah ouais. Et donc ça marche, quoi. Et par exemple, la collaboration avec Yona, ça, comment vous l'avez débloqué? Comment on arrive à convaincre des gens comme ça?
Et en fait, la plupart des gens, je vais te dire, la plupart des artistes, des créateurs sont... les choses sont, comment dire, en fait, l'être humain est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Avec Aurélien, on est des gens vraiment positifs. En fait, c'est exactement pareil ce qui s'est passé pour Isabelle Stanislas, qui a dit « Ah ouais, tiens, j'avais pas envisagé, mais en fait, j'ai envie de vous rencontrer, d'en discuter. » Ça s'est pas passé de la même façon qu'avec Yona. On aimait son travail. On a commencé simplement en disant « En fait, on aime ton travail. Voici ce qu'on te propose. Est-ce que ça te dit qu'on en discute ?» Et en fait, Yona a dit « Ah ok, les garçons, on se rencontre et on en parle. » Et à chaque fois qu'on a une collaboration, ça se fait de façon aussi simple que ça. Et ce qui compte pour nous, c'est la qualité du projet. Donc, ce qu'on va mettre au centre, c'est ça, c'est comment on développe un projet de qualité, comment on l'emmène, et à partir du moment où on est respectueux de la personne en face, elle peut dire oui ou non, mais il n'y a pas de raison de...
Qu'elle dise non, ouais. Comment vous arrivez à les convaincre? En fait, vous proposez, ce que je comprends bien, vous avez une proposition, vous aimez le travail de cette personne-là, et vous... mais c'est, en fait, c'est une démarche hyper sincère et simple, quoi.
On se rend compte de quelque chose, c'est-à-dire que aussi quand tu proposes, enfin là on prend le cas de Yona parce qu'on en parle, mais Yona, on aimait son travail réellement, sincèrement. On l'a contacté en fait en lui disant tout simplement qu'on adorerait faire quelque chose avec elle. Et en fait, en l'état, on a expliqué notre travail, mais on n'avait pas, si tu veux, d'idée très concrète de ce qu'on pouvait lui proposer. La seule chose qu'on pouvait lui proposer, ou en tout cas ce qu'on lui a dit, c'est que on adorerait travailler avec elle. Donc ça s'est posé comme ça, mais...
Je pense que c'est plus... Pardon, excuse-moi, mais c'est même plus précis que ça. C'est-à-dire que j'ajouterais... En fait, on est des marchands et on est des galeristes. Donc, en fait, on propose un travail de galeriste. C'est-à-dire que...
Ouais, sérieux.
Voilà, le travail est sérieux. Il a déjà été fait. Parce que faut être vigilant à pas s'auto-dévaloriser sur le travail qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on propose à Yona Vautrin ou aux créateurs contemporains, c'est on propose un vrai travail de galeriste. Notre investissement, il est sincère. Mais néanmoins, notre but, c'est, comme je disais, on est des commerciaux, donc
de vendre,
but, c'est, voilà, c'est de vendre, c'est de trouver un public, c'est comment positionner une œuvre. Parfois on se plante et on assume aussi que en fait c'est de la recherche, de bien positionner un travail, et c'est de construire j'entends bien qui se
juste après la baignoire
qui est propre, mais c'est ça aussi qu'on propose, et on va mettre des moyens en place pour défendre cette exposition.
Je dévalorisais pas, enfin effectivement j'ai pas commencé par ça, mais aujourd'hui on se fait confiance, se fait très confiance.
Ouais, vous avez confiance en vous, c'est tout.
Donc en gros, quand tu vas chercher un créateur ou quand tu le contactes, ton travail pour toi, il est acquis. Aujourd'hui on n'a pas besoin d'être validé, si tu veux. Donc quand on va en fait quand on rentre en contact avec elle, on sait que ce qu'on propose, on veut proposer quelque chose de solide.
Ouais.
Donc après, ça rentre
vous
ensuite
avez un track record.
En phase de discussion.
Track record. Non, mais c'est surtout qu'en plus, ce qui est tout à leur honneur, c'est-à-dire qu'en fait, quand aussi un dialogue, une collaboration fonctionne, comme avec Isa ou avec Yona, c'est que c'est des gens aussi qui sont. On est tous bourrés d'insécurité, mais c'est des gens qui sont. À leur place, qui sont tellement, qui, comment dire, elles ont pas besoin non plus que je les valide. Donc, c'est à dire qu'en fait, de venir faire cette expérience, de comprendre mon travail, à aucun moment, même si au final, c'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, pour l'instant, je trouve que c'est pas le cas, on arrive quand même à ça, mais, à avoir un niveau d'exigence, à avoir des belles expos finies, néanmoins, elles sont aussi bien dans leur peau pour venir, faire ces pas de côté-là et s'amuser et aller, elles sont pas, je pense, sur leur image, en train de se dire non, au contraire, Yona, elle arrive à un moment dans sa vie où, les possibles sont ouverts, comme Isa.
Il y a quelque chose. Jérémy pointe ça, mais effectivement, on aurait dû en parler dès le départ. là où on se trouve à Paul-Bert-Serpette, c'est une bulle. Et où en fait, en gros, quand tu es à Paul-Bert-Serpette, l'avantage, un de tes avantages, c'est que tu peux choisir exactement à quoi ressemble ton métier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une fiche. Il n'y a pas une fiche, en fait, de poste très précise. Non, tu lui donnes exactement l'impulsion que tu veux. Et nous, notre impulsion, en fait, et on l'explique très bien, et c'est pour ça que pour l'instant, enfin, Yona a dit oui direct, c'est qu'en fait, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est clair. On propose quelque chose et après on en discute ensemble, tu vois. Mais le fait qu'on soit dans un endroit où on a le droit d'être galeriste, où en même temps quand on fait une exposition, on a le droit aussi de mettre des choses qui ne sont pas d'eux. Mmh. Et on peut mettre un canapé en dessous avec une table basse et des fauteuils et un bahut. En fait, les puces, mine de rien, en tout cas Paul-Bert-Serpette, il y a une dimension de liberté qui est quand même géniale pour ça. Tu vois?
Oui, on est très libre, et moi c'est ce que j'aime aussi chez les collègues, c'est-à-dire que il y a un esprit commun, une façon de pratiquer le métier, et néanmoins chaque marchand a sa façon de faire le métier, ouais, complètement différente.
D'ailleurs, comment vous allez faire le switch? Enfin, parce que ce que je comprends entre les lignes, c'est que vous avez envie d'ouvrir des galeries ou en tout cas des lieux hors ce marché opus. Mais vous n'allez pas faire ce métier de galeriste comme tout le monde le fait, avec des murs blancs et
déjà,
voilà.
Je crois que la mode est passée du mur blanc dans le lieu d'exposition, dans le lieu de vente.
Ouais.
En vrai, que ça répond aussi à une à des époques, en fait. Et après, non, je te dis des conneries, parce que si tu vas dans une galerie d'art contemporain, si tu vas
tu vas chez Perrotin, tu vas chez Ménour, chez la plupart, c'est tout blanc.
Ouais, parce que tu vends de l'art qui est accroché au mur, ou en tout cas, ou même les sculptures, ou etc. T'as besoin, en fait, de vide autour de toi pour être concentré sur le travail.
Ouais.
Mais nous, on aime bien la couleur, déjà.
Non, mais après,
on aime bien la couleur, donc en fait, on n'a jamais été trop trop blanc.
Après, je dirais aussi que c'est important de savoir exactement le métier que chacun fait.
Mmh.
Et on n'est pas décorateur, on est des ensembliers à la rigueur, c'est-à-dire qu'on le fait, on fait des accompagnements clients, ou on le fait, et je crois qu'on le fait mieux maintenant. On a appris à bien le faire, mais néanmoins, mon métier, c'est pas, je suis pas là pour. Je suis pas Olivier Rousteing, ou je suis pas Kelly Wessler, chacun dans leur discipline, qui viennent donner le ton, qui viennent inspirer, qui viennent créer des choses. Moi, ce qui est important, c'est le produit. Je suis toujours sur l'œuvre ou sur le design. Donc en fait, là où je vais exposer, c'est comme Opus, je vais m'adapter au code. C'est-à-dire que mon ego de marchand ne va pas être sur la couleur des murs de la galerie ou de l'espace. Tout dépendra de l'opportunité, d'où on se situe. Moi, il y a des galeries que je trouve très innovantes et magnifiques, comme par exemple la galerie Créo, évidemment. Et en fait, ils sont quand même sur un mode de présentation assez classique. Et quand je me déplace voir leur nouvelle exposition, je vais voir les pièces, je vais voir la création.
C'est quoi la galerie Créo?
La galerie Créo, ça fait partie des plus intéressantes et des plus grandes galeries françaises actuelles en création contemporaine. Ils éditent du mobilier, ils défendent des créateurs depuis longtemps. C'est Didier et Clémence qui ont créé cette identité-là. La galerie existe, je veux pas dire de bêtises, depuis le début des années 2000. Ils ont un parcours tous les deux passionnant, et c'est par exemple eux, je crois, qui sont je veux pas du tout que Didier croit que je résume son travail qu'à ça, mais ils sont par exemple c'est les galeristes du Bourroulec et de ses dessins que tu peux voir, qui sont extraordinaires, et c'est eux qui vont qui sont ces galeristes d'art. Donc en gros, ils accompagnent des...
Mais t'es cherché Virgil Abloh surtout.
Ouais, ils ont été chercher Virgil Abloh sur un travail de design qui était passionnant. Donc c'est des gens qui viennent soutenir le design, la création dans ce qu'elle a de plus avant-garde, plus pointu.
Trop bien.
Et pour nous, ça fait partie de nos
maîtres. C'est des exemples, ouais.
Ah,
ouais.
Moi, je suis passionné de la galerie Créo. Aujourd'hui, pour moi, j'ai mes deux piliers, c'est Sodenmeyer et Créo.
Sodenmeyer, c'est qui?
C'est un galeriste qui a vraiment fait qu'avec Neo Too, qui a vraiment incarné la décennie 80. La décennie 80, elle est intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de galeristes. Il y a eu vraiment une explosion de galeries en France. Il y a eu une création sur cette création-là, justement, qui a été passionnante, avec plein de créateurs et plein de galeristes qui étaient là, qui étaient assez fous pour financer cette création-là et y croire. Et parmi ceux-là, il y a des noms dans la décennie 80, comme Sodenmeyer et Neo Too. Il y a aussi Nestor Percal, qui avait évidemment sa galerie, qui a été le premier galeriste à défendre Memphis, par exemple, qui n'était pas du tout évident, comme il le raconte très bien dans la décennie 80. Et Stoudemire a été à l'avant-garde de la création française. C'est-à-dire que il y a un avant et un après dans ce travail de galerie et Créo continue ce chemin passionnant.
Trop bien.
De la création. Ouais, ouais, c'est...
Et vous, vous inscrivez dans cette continuité? Enfin, oui. J'ai l'impression que vous créez quelque chose d'assez nouveau, finalement. Vous innovez vachement.
On espère.
Ouais.
On espère. Après, je pense qu'humblement, on essaye aussi de continuer un propos. Un propos qui existe, de le faire peut-être à notre façon, mais on espère qu'il y a l'innovation. C'est le but, en tout cas, aujourd'hui. Quand on soutient les designers, on essaye d'aller soutenir justement cette création, cette avant-garde-là.
Mais vous, est-ce que vous vous situez pas... En fait, ce que je trouve que vous avez un... Comment être clair? Comme c'est des sujets que je maîtrise pas trop, moi, vous avez compris, hein, c'est entreprendre dans la mode, je maîtrise beaucoup plus ces sujets-là que votre métier. Il y a quand même une dimension de, un peu de décorateur, enfin, d'éditeur, vous êtes des sélectionneurs, vous êtes des directeurs artistiques, parce que, et puis, comme ça vient des tripes, vous proposez un point de vue sur la décoration, sur l'art, etc.
Pas sur la décoration.
Tu fais des mises en scène.
Mais oui, mais en fait, si tu veux, en fait, tu vends pas tes mises en scène. Tu vends les pièces que d'autres ont dessinées.
Oui, mais potentiellement, il y a des gens qui vont passer devant ton stand et vont dire, j'adore le bahut avec l'œuvre d'art et puis le luminaire, etc. Je veux tout, en fait, et je l'embarque tout.
Oui. Ah, est-ce qu'on inspire? La réponse est oui. Mais ça, ça tant mieux. Et moi, par exemple, j'adore sur... on a fait une très, très belle collab avec une toute jeune décoratrice qui est aussi collectionneuse, quelqu'un qui est aussi artisane, qui s'appelle Céline Farolusu. On a fait une collab intéressante parce qu'elle a un regard singulier au moment de Noël. Et je trouve ça super parce qu'elle arrive avec ses palettes de couleurs, etc. Et pour moi, ça a vivifié mon travail. Il y a plein de gens qui ont photographié, qui sont inspirés des couleurs qu'elle avait choisies. J'étais assez fier d'avoir été sa page blanche à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je comparerais mon métier au celui de producteur de cinéma. C'est-à-dire, en tant que producteur, en tant que galeriste, t'as un point de vue. T'as un point de vue, tu es Jacques Barsac, le grand auteur qui, c'est le seul qui écrit sur, qui a la référence sur Perriand, il était aussi son gendre, disait quand Perriand écrivait son autobiographie, il disait « je suis le mur qui renvoie la balle », ou c'est peut-être elle qui le disait. Mais en gros, il était là pour aider Perriand à renvoyer ses idées et l'aider à les organiser et à accoucher. Et en fait, on est dans une maïotique, c'est-à-dire que on est ce mur-là, mais la façon dont on fait rebondir la balle ne sera pas de la même manière que sans doute Stoudemire ou Créo le font. On a notre façon de voir les choses, on a notre point de vue. En revanche, ce qu'on n'est pas et ce qu'on ne sera pas, c'est qu'on n'est pas celui qui tient le crayon. On est là pour dire, bon, peut-être que plutôt que du rose, il faudrait peut-être du bleu. Et on essaye d'accompagner. Où est-ce que tu veux aller? Parfois, ça arrive souvent, mon principal métier, c'est de poser la question... principal point de mon métier, c'est de dire où est-ce que tu veux aller, quel est le projet, et on va aider parfois à accoucher et de dire là on a besoin d'un peu plus de temps, là c'est assez mûr, et c'est ce travail qu'on essaye de faire. Et de fait, ça influe sur la création entre un projet de fauteuil et celui qui va sortir. Le dialogue fait que ça a nourri cette création-là et que le fauteuil n'aurait pas été le même si ça avait été d'autres galeristes.
D'ailleurs, creusons ce sujet-là de galeriste. Tout à l'heure, tu expliquais en introduction que finalement ton travail de production dans le cinéma, il y avait beaucoup de parallèles avec ton job de galeriste aujourd'hui. Ça consiste en quoi en fait un galeriste? C'est quoi le job du galeriste? Et comment tu le fais toi? Parce que j'imagine que tu vas me dire il y a autant de galeristes que de façons de faire, tu vois, et autant de façons de faire que de galeristes. Mais toi, comment t'envisages ce métier?
Alors, je dirais comment on le fait nous. C'est-à-dire qu'Aurélien et moi, on est sur un dialogue constant, perpétuel, souvent en symbiose, souvent en chamaille aussi, parce qu'en fait, on confronte nos idées, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, on est à la fois le garde-fou et le stimulant de l'autre. Même en vacances, on parle de notre travail, et parfois c'est dur de décrocher, mais c'est toujours passionnant. Notre travail, c'est un espace dans lequel on va vendre du design ou de la création à des clients. Notre métier, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on est là pour vendre des pièces et qu'elles trouvent leur preneur dans de bonnes conditions. Donc, mon métier, c'est un métier de vente, déjà. C'est celui-ci, comme on a parlé, donc, avec tous les ressorts et toutes les spécificités que ça a aussi, qu'une pièce de design ou un tableau, ça appelle. Et l'autre chose sur la galerie, qui prend beaucoup de temps, je dirais que c'est un tiers d'organisation administratif, un tiers de vente et de suivi de vente, et un tiers sur la recherche de pièces. Mmh. Donc la recherche de pièces, tu l'as compris, il y a celle d'en ancien, en gros, avec, on pourra en reparler, développer, mais il y a plein de canaux de recherche qui existent, et sur la création, c'est-à-dire le suivi des créateurs de cette création-là et des designers, qui prend un temps fou parce que c'est faire des rendez-vous, regarder les projets, y réfléchir, proposer des retours intelligents. Et pour 5 minutes de retour avec Aurélien, c'est des heures et des heures de discussion, de brainstorm. Parfois, on n'est pas d'accord. Il faut toujours qu'on arrive en binôme et qu'on ait une seule voix pour répondre au créateur. Sinon, en fait, ça commence à devenir compliqué pour lui et c'est normal. On veut que ça soit efficace et surtout stimulant. On veut offrir ça. Et c'est drôle parce qu'en plus, on développe aussi, on essaye, chaque créateur, on a aussi des affinités. Parfois, les créateurs ont des dialogues privilégiés avec l'un ou l'autre. C'est aussi la force d'être un binôme. Mais les réponses qu'on donne et les retours qu'on a sont toujours.
Ouais, elles sont raccord.
Toujours. Ça, c'est la première chose. On part jamais en rendez-vous, même si l'un ou l'autre n'est pas là, sans s'être concerté, savoir ce qu'on allait dire ou comment on y allait. Est-ce que ça répond à ta question?
Ouais, carrément.
Sur mon métier. Et donc, c'est celui-ci et il est passionnant. Il y a pas un matin où je me lève où je me sens pas heureux de faire ce métier, qui était inattendu dans ma vie.
Ouais.
Et en même temps où j'ai pas l'impression qu'on est un peu des fous.
Pourquoi?
Parce que, Le contexte est pas simple, il est pas simple depuis plusieurs années. En même temps, je sais pas si un jour il a été simple, que notamment depuis qu'on a pris la décision d'aller vraiment créer cette édition qui est vraiment pas destinée à Paul Bert-Serpette et qui trouvera un autre espace, c'est beaucoup d'argent investi, c'est beaucoup de temps et c'est se faire confiance, et je me dis mais oui, il y a une part
de folie.
Ouais, d'entreprendre, de toute façon d'entreprendre, il y a un moment où il faut y aller, et puis je crois qu'il y a une part de, je sais pas, ouais, je me dis qu'on est fou, mais en tout cas ça pour l'instant ça fonctionne, on a la chance d'en vivre correctement, on a beaucoup de chance donc, et d'avoir des gens qui continuent de nous faire confiance, des clients qui nous suivent depuis très longtemps et...
On fait fortune?
Je sais pas si on fait fortune, ou pour l'instant on n'a pas encore fait fortune, mais peut-être que dans 10 ans on aura une maison à Montmartre. Mais pour l'instant on n'y est pas.
Je vous le souhaite.
Non, je crois que déjà si on arrive à en vivre convenablement.
Décemment, ouais. Convenablement.
Ouais. Décemment, je dirais un peu plus.
Un peu plus que décemment. Ouais.
Non, c'est pour ça que je dirais convenablement, c'est-à-dire on a la chance de pouvoir partir en vacances. Ouais. On n'est pas dans le besoin. Après, ça veut pas dire qu'il y a pas eu des moments difficiles. L'année Covid,
c'était chaud. Ouais.
Ouais, ça a été difficile. Puis pareil, l'impact des présidentielles ou de la guerre en Ukraine, on se pose beaucoup de questions.
Vous le sentez aussi? Ouais.
Bah, comme tout, je pense, tout commerçant.
Oui, parce que le moment où tu vends pas du pain. Non mais concrètement, hein. C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où tu ne vends pas de choses vitales,
ouais.
Normalement en fait les enveloppes qui te sont allouées par la clientèle arrivent en toute fin parce qu'en fait ça n'est que du plaisir. Une paire de fauteuils, en fait,
on peut faire sans, ouais, c'est clair.
Bah, ou en tout cas tu peux faire avec celle que t'as depuis 10 ans,
ouais,
tu vois. Donc effectivement, ouais, non, on est impacté dès qu'il se passe quelque chose de près ou de loin, tu le sens, tu le vois, tu vois.
Mais en vrai, quand tu deviens commerçant, t'as une façon. La dernière fois, j'ai vu je t'en ai parlé il y a 2 jours, ça m'a un peu heurté. Quelqu'un qui moquait un contact sur Instagram, qui moquait une commerçante chocolatière à Rennes, je crois, avec ses lapins de Pâques, et qui disait, en fait, c'est un peu dur avec les grèves, qui ne donnait à aucun moment son avis sur les grèves, qui disait, là, on lui pose la question de l'impact des grèves en ce moment sur son activité, elle dit, c'est dur, je suis vraiment en dessous par rapport aux prévisions. Et la personne moque ça en disant, ah oui, mais bon, en fait, entre la réforme des retraites et son lapin de Pâques, Et en fait, je trouve que c'est une drôle de façon de le penser, c'est-à-dire qu'en fait, l'un n'enlève rien à l'autre. On peut à la fois être très mobilisé sur la réforme des retraites ou sur une manifestation et être en accord avec ses convictions, et aussi être attentif au fait que le commerçant du quartier qui se réveille le matin, couvre son rideau et en fait vend son lapin de Pâques, en fait, il vit de ça. Moi, j'ai trouvé des choses pendant le confinement. En fait, quand on disait oui, on n'est pas commerce essentiel, en fait, les gens avaient un regard très très dur sur nous ou sur les restaurateurs. Mais en fait, de vivre de ça et d'avoir aucun filet, on n'a pas de pôle emploi, on n'a rien en fait. Ouais. Et on vit que de ça. Et donc, forcément, maintenant, j'ai un regard sur les commerçants en me disant oui, c'est dur. J'ai une pensée pour les commerçants en centre-ville. J'ai une de mes meilleures amies qui est passionnante, qui a ouvert sa boutique zéro déchet. D'ailleurs, je conseille d'y aller. C'est les Glaneuses et qui fait un super boulot. Mais en fait, quand il y a les manifs et tout ça, même si elle a des convictions politiques, etc., ben en fait, oui, elle tremble. Elle tremble parce que ça a un impact sur son business. Et en fait, son business, je sais qu'avec son associé, elle le porte à bout de bras. J'ai trouvé que l'histoire du lapin m'avait heurté. Je me suis dit, putain, la chocolatière, en fait, elle craint pour son business. Et derrière, c'est son crédit, c'est sa famille, c'est sa vie aussi. Elle y a mis son cœur et son lapin de Pâques. En fait, c'est pas juste un lapin qu'elle va vendre à Pâques. Et ça peut paraître trivial de le dire, mais en fait, c'est aussi
derrière le lapin, en fait, aujourd'hui, tu vois qu'il y a le loyer, tu vois qu'il y a les charges, tu vois qu'il y a l'électricité, tu vois qu'il y a tout ça. Et en fait, en gros, effectivement, ça te parle différemment quand tu te lèves le matin et que t'allumes ta boutique. Et qu'en fait, entre la chocolatière de Rennes et toi, il n'y a pas tant de différence.
Bien sûr.
Sur les contraintes de temps et sur l'acharnement au travail, il n'y a pas. La différence n'est pas si énorme que ça, en fait. C'est surtout ça. Tu le vois en miroir.
Oui. C'est. Donc, d'où cette petite part de folie.
D'ailleurs, où sont nos chocolats pour Pâques?
Je sais pas.
Tu les as pas achetés à Rennes?
Non. C'est votre vision là à 10, 20, 30 ans, 40 ans. Enfin, 40 ans, ça fait quand même très très loin. Mais en tout cas, cette vision, votre rêve le plus fou, comment vous imaginez les choses, quoi? C'est quoi l'ambition, en fait? L'ambition du truc? Est-ce que c'est un petit projet? Non, vous avez envie de marquer l'histoire de la galerie?
J'ai déjà répondu au questionnaire, donc si je peux répondre à cette question. Donc, on sera d'accord, ça doit. En fait, l'ambition à 10-20 ans, c'est de continuer à développer la galerie. C'est notre ancrage à Paul-Bert-Serpette. Il est important, il est là. On y a commencé et on continuera. On continuera de faire des expos sur le design historique et s'y intéresser. Là commence notre expo sur la Mauritanie et sur Perriand. Et on continuera de faire ce travail-là. Ensuite, ce qu'on a envie de développer, évidemment, c'est cette création-là. Et ça va nous amener ailleurs. On a des envies de galerie, on a des envies de salon. Et on va y aller pas à pas et on verra si on arrive ce pari-là et le temps que ça prendra. Et je crois que le rêve le plus fou qu'on ait, et ça c'est vraiment très lointain et
très fou
et assez fou, c'est vraiment très fou, c'est que je crois qu'à terme on aimerait bien avoir une fondation avec qui abriterait les collections, nos collections à la fois de design historique, ce qu'on achète, ce qu'on arrive à garder. Ça, tu l'as pas dit, mais c'est un truc qui a vraiment changé dans notre rapport au design, c'est qu'il y a des choses maintenant qu'on s'autorise à garder. Et aussi qui montrera toute cette recherche qu'on a défendue longtemps avec un souci de démocratiser le rapport au design, qu'en fait les jeunes générations, et ça je pense que tu l'as vraiment toujours porté en tant que prof qui s'accomplit autrement, de se dire qu'en fait ces jeunes générations puissent avoir un espace où un jour on vienne découvrir, s'intéresser au design, à cette création-là, et continuer de financer cette création.
Sur la question de la fondation, qu'on comprenne bien, c'est pas une espèce de gloire à Jérémy Aurélien. C'est pas un lieu, genre, sorte de mausolée. Genre, regardez tout ce que ces gars ont pu faire de merveilleux. Pas du tout.
Pourquoi pas?
oui, mais on est très tranquille avec ça. En vrai, on est très tranquille. Je pense qu'il y a il y a quelque chose chez nous de beaucoup plus. Il faut que je trouve le bon mot, mais on est tous les deux issus de la classe moyenne. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que mine de rien, le meuble, qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, nous élève. et dans de belles conditions en plus, c'est-à-dire vraiment hyper stimulante, etc. Et en fait, c'est plus sur une notion de partage. Exactement. Vraiment, c'est en gros, voilà ce qui existe, voilà ce qui a été fait. Mais plus, alors la fondation, parce qu'en fait, c'est un modèle privé, et je pense que c'est plus simple à mettre en place. Mais si idéalement, on pouvait avoir un musée, ça serait vraiment chambé. Ça serait vraiment super. C'est plus en fait dans la dynamique, si tu veux, de faire découvrir et de partager. Mmh. C'est vraiment ça.
Mmh. Oui, et puis d'avoir un espace avec un peu de chance, de continuer à avoir un espace qui permette aux créateurs d'avoir un espace pour créer. Mmh. Et ça, c'est notre mission, c'est ce qu'on aime, et on aime l'avant-garde de 1945 comme l'avant-garde de 2023, et elle est passionnante. Et puis, en plus, de manière complètement pratique, je suis pas certain que la nouvelle génération, les neveux nièces, ou si on a un gamin, je suis pas certain qu'on a envie de les embarrasser avec des stocks et des stocks de meubles qui nous ont. Donc ouais, c'est un peu, je crois, l'ambition de laisser quelque chose qui soit intéressant, qui participe d'un propos. C'est ce qu'on essaye de faire. Après,
d'un point de vue plus terre à terre, l'acquisition, elle se fait comment aujourd'hui chez vous? Il y a votre boutique qui est ouverte, qui est à Pignon-sur-Rue, vos stands qui sont ouverts à Pignon-sur-Rue. Donc ça, j'imagine que c'est un moyen d'attirer de nouveaux clients. Il y a la presse, il y a les collaborations, il y a les salons aussi. Vous parliez des salons aussi, des expos hors.
On s'y est pas confronté encore.
Vous voulez le faire. Comment est-ce qu'on va chercher de nouveaux clients? Comment est-ce qu'on se fait connaître dans ce monde-là? Parce que j'ai l'impression que vous vivez quand même une certaine croissance. Au-delà du bouche-oreille et de bien faire son travail, est-ce que vous avez d'autres leviers?
Tu as déjà tout déballé là.
Non, il y a déjà la force de Paul Bert Serpette, c'est-à-dire que c'est un endroit. Je dis pas ça parce que j'ai pas de part dans Paul Bert Serpette, mais la vérité c'est que ça serait mentir de dire que il y a pas encore des clients qui traversent ce marché. En fait, non, il est encore dynamique. Et en fait, quand j'ouvre mon rideau le samedi matin, je ne sais pas qui je vais croiser. Et mon week-end, je peux le faire. Je peux faire un beau week-end. Mmh. Je peux avoir la chance d'avoir des clients qui passent et de très beaux clients. Enfin, des gens, à la fois des kidam qui veulent s'acheter une paire de fauteuils, qui veulent se laisser surprendre, comme des architectes, des collectionneurs. Donc, c'est surprenant, en fait. Et c'est notre un des premiers, en fait, la boutique physique n'est pas morte, loin de là, parce que ça reste quand même aujourd'hui notre premier canal de vente, c'est d'ouvrir ce rideau. C'est pour ça qu'on s'est agrandi, parce que Paul Bert Serpette, c'est encore une belle marque qui attire de gens qui viennent acheter. Il y a des acheteurs avec de beaux budgets, donc on a la chance de pouvoir travailler. L'autre chose qu'on a développée, c'est évidemment le bouche à oreille. C'est pas du tout à exactement, parce qu'en fait on nous envoie des clients, les gens nous connaissent de réputation, et même parfois maintenant on a des clients qui arrivent et on a été recommandé par des gens qu'on ne connaît pas, mais qui connaissent dont on peut connaître le travail de loin, mais qu'on n'a jamais connu personnellement. Donc pour nous, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. C'est que ce qu'on est en train de développer, c'est sérieux, assez sérieux pour qu'on nous recommande. Donc ça, c'est vraiment génial, une réussite. Et l'autre chose, c'est que moins que les sites de vente, c'est je suis assez épaté par Instagram. C'est-à-dire qu'on continue d'être contacté à travers le monde grâce à Instagram, et c'est un vrai outil de vente. Enfin,
mais c'est en organique. Vous faites pas de sponsor, etc.
On commence à en faire.
Ouais.
On commence à s'y confronter. Mais c'est vrai qu'on s'est on avait toujours été un peu, on s'est laissé toujours un peu porter par la vibe, parce que ça, on avait la chance que ça complète toujours bien notre chiffre d'affaires. On a été assez content et on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on fasse un effort, parce qu'on était un peu à la traîne sur le nombre, peut-être, d'abonnés, de dynamisme. Je pense qu'il y a encore quelque chose à conquérir et développer là, vu le potentiel.
Ouais.
Et on s'est mis sur TikTok.
Ok, très bien. Et vous faites quoi sur TikTok?
Jérémy s'est mis sur TikTok.
Déjà, j'ai pas envie d'être con. J'ai pas envie de, tu vois, de. Je pense que c'est important toujours de prendre par curiosité, de savoir tester, ce qui se passe. Ouais, de tester les choses. Et j'ai trouvé que ça permettait de faire des vidéos vraiment, vraiment pas mal. Je suis assez content du résultat, même si c'est vraiment améliorable, parce que je fais ça humblement. Après, je suis pas certain d'avoir pour l'instant les acheteurs sur place, mais c'est toujours chouette de nouer des dialogues. Et les jeunes et les étudiants d'aujourd'hui sont les clients de demain.
Bien sûr.
Et en fait, je trouve que l'éducation au design, et elle commence maintenant. Moi, j'adore quand il y a des jeunes couples de 25 ans qui sont sur le stand et qui s'intéressent. Je vois bien qu'ils viennent d'emménager. Et la plupart du temps, ils ont pas forcément les ronds moyens, pour acheter chez nous, mais il y a cette curiosité-là. Donc oui, ils commenceront sans doute sur un canapé made, mais dans 10 ans, ils finiront avec un canapé Garish.
On a commencé avec un canapé Ikea.
On vous le souhaite. Trop bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question? J'imagine que non, mais en tout cas, on a parlé de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a omis, des gros? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose?
J'ai pas l'impression.
Ouais.
Non, je crois. J'ai le sentiment. Je te remercie. On a fait vraiment le tour de notre métier en profondeur, même dans des choses qu'on raconte peu. Peut-être que moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose qui est. Dans cette part de fantasme, il y a sur notre métier, qui est celui d'antiquaire à Paul Bert, c'est les gens sont toujours assez sur. Enfin, comment dire, peut-être qu'on peut avoir l'impression que nos prix sont. Qu'il y a des marges délirantes, ou. J'ai juste envie de dire que. La plupart des collègues comme nous, on sera toujours assez transparent sur les prix qu'on pratique et sur comment on travaille. Que cette part de fantasme, elle peut tomber assez vite, dans le sens où il suffit de nous poser la question. C'est que on parle souvent d'éducation aux puces, et en fait, les codes à Paul Bert Serpet, parfois on peut se laisser impressionner, mais c'est beaucoup plus simple d'accès. En fait, la première porte, c'est simplement de dire bonjour à la personne qui est dans le stand, parce qu'en fait, la personne qui est dans le stand, c'est le propriétaire, et c'est lui qui vide ça. Et à partir du moment où vous avez dit bonjour à l'antiquaire, le rapport, le pH change immédiatement. Et on va vous accompagner, c'est demander l'autorisation de s'installer, de s'asseoir. Et parfois, ce qui est surprenant, c'est que les gens peuvent rentrer sans dire bonjour et aller toucher tous les tissus, etc. Et en fait, on est obligé de revenir.
Ouais, essayer tous les fauteuils.
On essaye de revenir un petit peu en arrière en essayant de comprendre la demande. En fait, il y a des restaurations, des tissus d'éditeurs. Donc, en fait, et poser la question quand on a un doute sur un prix, etc. Je connais aucun collègue qui va jeter une fumée, non, de mystère. On explique combien a coûté la restauration, combien coûte le tissu, combien coûte le tapissier, combien coûte le transport. Et en fait, ça, faut pas hésiter à poser les questions, discuter sur le travail qu'on fait. Et oui, parfois, en fait, les pièces sont plus chères à Paul Bert Serpet que sur certains sites de vente, mais nos charges sont plus élevées parce qu'on prend le risque tous les week-ends d'avoir une boutique physique et d'accueillir les clients et de les accompagner et de faire un vrai travail comme celui-ci.
Trop bien.
Et voilà, je dirais juste que...
C'est un petit message à l'audience.
C'est ça. On ne sort
bonjour,
pas
venez nous voir.
On ne sort pas son portable et on ne se met pas sur Celency en même temps qu'on parle à l'antiquaire. Ça ne se fait pas. Mais sinon, la plupart des gens sont très respectueux.
Ouais, ok, très bien. Parfait, on finit sur ces bons mots. Peut-être pour passer le relais, j'aime bien poser cette question, c'est qui souhaiteriez-vous entendre sur Entreprendre dans la mode? Et on n'est pas obligé de parler de mode, hein, vous l'avez bien compris maintenant.
On a bien réfléchi à cette question. On a 4 noms pour toi.
4 noms, putain, vous êtes chaud là.
4 noms. On a.
Ils vont placer tous leurs potes.
J'aimerais bien. Si tu j'ai pas vu si tu l'avais déjà interviewé. Il y a Alexandre Mathiusi.
Ouais, si c'est déjà fait. Ça,
c'est déjà fait.
Ça, c'est fait.
Alors ça, j'ai pas. Il y a Isabelle Stanislas.
Non, ça, j'ai pas.
Je pense que ça, elle va t'intéresser parce qu'elle a un rapport à l'architecture, au luxe. C'est elle qui avait décroché ce beau chantier qui était celui de la rénovation du Salon de l'Élysée, et c'est quelqu'un qui a des choses à raconter. Il y a une profondeur, il y a un regard sur son style, sur la décoration qui est intéressant. C'est pour moi de la haute couture. On a évoqué, toi t'avais pensé à Pierre Frey.
Oui,
Pierre, directement.
En fait, en gros, quand on a vu cette question-là, en fait, celui qui est à la tête de la maison Pierre Frey, qui est un éditeur de tissus, qui est hyper dynamique, c'est un type qui a tout l'héritage en fait familial sur les épaules et qui le gère hyper bien. Et en écoutant en fait tes précédents podcasts, je me dis que c'est un profil qui pouvait être vraiment super. Enfin, qui pouvait apporter vraiment une part hyper technique, en fait, un pan un peu méconnu de la fabrication du tissu.
Trop bien.
Ça peut être cool. Et le quatrième, c'était qui?
Et en fait, je pense que c'est un couple dont on a parlé là pendant cette discussion. C'est Didier et Clémence de la galerie Créo. Je pense qu'ils ont des choses à raconter. C'est même pas, je pense, j'en suis certain.
Ouais.
Passionnant des personnes avec qui ils ont travaillé, la façon dont ils conçoivent leur business, la façon dont ils travaillent en tant que couple. Ils ont une vision, ils ont un regard, et ils sont ils sont là, ils font partie des fleurons des galeries françaises.
Trop bien. Bah, merci infiniment. Et dans le, je pensais au petit-fils, non, au neveu de Périan.
Au gendre.
Au gendre. Ce serait hyper intéressant aussi. J'imagine, en tout cas, pour parler de Périan, quoi.
Oui, en plus, Jacques Barsac est très généreux quand il s'agit de parler de l'œuvre. Il en est spécialiste. C'est aujourd'hui lui qui est garant, avec évidemment Pernette, son épouse et la fille de Périan. Ils sont garants de ce patrimoine. Ils ont des choses. Ils connaissent l'œuvre intimement. Ouais. Et ce que je trouve formidable, c'est que Jacques Barsac est un chercheur et qui découvre toujours quelque chose, tellement l'œuvre est dense. Enfin, je ne dis pas de bêtises en disant ça.
Non, c'est très juste.
L'écouter, c'est
magique.
On appuie sur le bouton et deux heures plus tard, on est encore sur Périan et sur en plus son regard. Ouais. Parce que c'est un chercheur, donc il a un regard aussi sur l'avant.
Et il a un truc merveilleux que souvent les chercheurs n'ont pas, mais faute de documents, c'est qu'en fait, lui, il maîtrise toutes les petites histoires dans la grande histoire.
Bien sûr.
Donc en plus, ça te fait une densité, en fait, dans le récit, qui est extraordinaire. Enfin, et en plus, il le fait d'une manière hyper fluide, très sérieuse. Il est dans le partage, non-stop. C'est hyper intéressant.
Trop bien. Cool. Bah, merci à tous les deux.
Merci à toi.
Bonne chance.
Merci
beaucoup. Merci
good beaucoup. Luck et longue vie à votre projet.
Merci. Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.